plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Hervé Fischer, sociologue et philosophe de l'art et de la cyberculture, cofondateur et président de Science pour tous. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Science pour tous qui regroupe près de 250 organismes et dont la mission est de faire reconnaître et de promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société. Première conférence d'une série de quatre, la prochaine sera le 4 décembre en compagnie de Claire de Mazancourt, portant sur le sujet de la biodiversité. La conférence de ce soir de M. Fischer porte sur l'impact de technosciences sur notre façon de penser, de percevoir et de concevoir le monde. Avant que la conférence débute, s'amorce, peut-être vous approcher un peu, puisque nous sommes peu nombreux ce soir, ce serait peut-être plus sympathique et plus agréable pour le conférencier. Et je vous informe également qu'une période de questions suivra la communication de notre invité. Alors, je vous souhaite une bonne et excellente soirée.
Merci. Oui, c'est vrai, ce serait plus sympa si vous vous rapprochez un peu, ceux qui veulent bien, mais sans vous faire d'obligation. Hein. Et éventuellement, imaginez que vous vous ennuyez dans une demi-heure, c'est plus difficile de ressortir quand on est tout prêt. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas très nombreux, pour vous dire la vérité. Ça fait partie des aléas de la vie des conférenciers et des institutions. Ça nous permettra peut-être d'avoir un échange plus personnel. Et mon idée, c'est de faire une conférence avec vous qui soit, j'allais dire, assez personnelle. Parce que maintenant, j'ai comme une expérience de vie et de recherche et d'écriture. Et puis, je suis arrivé à un certain nombre d'idées que je voudrais partager avec vous ce soir. Alors, je vais me mettre ici, parce qu'effectivement, il y a le roseau pensant qui est à gauche. Le son sera meilleur comme ça. C'est ce dont je vais vous parler. Je vais pas vous faire une conférence sur l'imaginaire en général, même sur spécifiquement l'imaginaire en relation avec les technologies numériques. Est-ce que c'est mieux comme ça ou quand je suis comme ça? C'est pareil? Bon, voilà. Un peu plus à droite, hein, sinon ça grinche là, d'accord, oui. Ouais, c'est très bien. Alors, pourquoi l'imaginaire? Comment cette affaire-là s'est présentée pour moi? D'abord, l'imaginaire, dans notre société occidentale, n'a pas toujours eu bonne presse. Vous savez bien qu'en construisant le rationalisme en Occident, on a tendu à pousser l'imaginaire sous le tapis parce que c'est quelque chose qui est irrationnel précisément, qui échappe au contrôle, qui est subjectif, qui mène à des folies. Et donc on a passé beaucoup de temps en Occident à éliminer l'imaginaire. C'était aussi lié dans la civilisation occidentale du Moyen-Âge, très chrétienne, c'était lié aussi à la, pas seulement à la déraison, mais à ce qui est un peu diabolique, à ce qui est quasiment le péché. Donc, la théologie avait éliminé l'imaginaire et le rationalisme a poursuivi dans la même attitude, en fait. Et vous savez très bien que la construction du rationalisme en Occident, disons depuis la Renaissance, ça consistait à éliminer tout ce qui est subjectif, émotionnel, non démontrable d'une façon répétitive et constante. Et au fond, même les poètes et les peintres sont devenus des gens qui devaient suivre des codes académiques rigoureux. Même, rappelez-vous, pour quelqu'un comme Boileau au XVIIe siècle, ce qui est vrai est beau. Alors on avait le vrai, le beau, le bien, puis l'imaginaire, le péché, le laid. Alors c'est dans cet esprit que nous sommes en Occident. Il faut bien le comprendre, parce que l'imaginaire c'est aussi quelque chose de sociologique et de culturel et d'historique. Ce n'est pas comme ça, une sorte de coloration avec laquelle on vit. Il y a des civilisations qui au contraire, on célébrait l'imaginaire dans la magie, dans toutes sortes de rituels, etc. Alors, moi, j'ai mené une vie d'artiste. Et donc, pour moi, l'imaginaire, c'était quelque chose qui était même fondamental. Et bien sûr, on a vu au 19e, au 20e siècle, réapparaître les poètes, réapparaître ne serait-ce que le surréalisme, l'inconscient du professeur Freud. Donc, on a revalorisé cet imaginaire. Et moi, comme artiste, en travaillant au début des années 70, à l'époque, j'étais assistant à... C'était plus la Sorbonne, c'était après mai 70, c'était Paris 5. J'étais assistant en sociologie de l'art et des communications. Et comme sociologue de l'art, j'analysais comment l'art fonctionne dans la société, ou comment même l'imaginaire fonctionne dans la société du point de vue institutionnel, du point de vue des valeurs qui sont en jeu dans la publicité, dans les médias, etc. Et je me suis mis à travailler sur de l'art sociologique, c'est-à-dire à inverser la position, pas faire de la sociologie de l'art, mais faire un art sociologique. Un art sociologique, c'est-à-dire une pratique artistique. On était après mai 68, donc il y avait beaucoup de choses à l'époque qui étaient l'imaginaire au pouvoir, c'était le grand moment. Une pratique artistique qui était assez engagée politiquement et qui analysait comment fonctionne l'art dans la société. Alors, bon, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes, et puis je me suis embarqué dans une affaire d'imaginaire. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai des beaux garçons à l'époque, hein. Même la photo là, qu'il y avait tout à l'heure, elle est avant-hier. Hein. Alors donc, me voilà à faire des pharmacies Fischer à travers le monde, dans différents pays, en ville, à la campagne. Et donc, là, c'était sur une place de San Paolo, où c'était à Buenos Aires, je ne me rappelle plus. Mais j'ai fait ça aussi sur la place de la République, de la place du Dôme, la cathédrale à Milan. J'ai fait ça à une sorte d'endroit, avec des papiers à ordonnance, des tampons et des pilules. Alors là, j'avais des pilules pour voter, des pilules pour l'amour, des pilules pour hygiénique, des pilules pour penser, toutes sortes de... Puis je parlais avec les gens. Il y avait pas mal de monde qui venait écouter, etc. Puis j'avais des entretiens, comme ça, on appelle ça en art des performances, hein, dans la rue, dans toutes sortes de pays, et en milieu urbain, en milieu rural, parlant avec les gens de ce qui va, de ce qui ne va pas, leurs bobos, ce qu'ils voudraient. Alors, ceux qui me disent, moi, j'aimerais bien avoir des pilules pour faire des enfants ou pour la paix, enfin, tous les problèmes. Donc, toute cette sorte de pensée out qui s'exprime dans une performance de ce genre assez, on va dire, assez fantaisiste. Hein. Bon. Alors, je donnais une prescription à chacun, je cochais les pilules, j'en rajoutais d'autres qui ne sont pas sur la liste, mais qui semblaient ressortir de la conversation. Et puis, quand j'étais, par exemple, en Argentine ou au Brésil, à l'époque des dictatures militaires, je peux vous dire que l'exercice était sous haute surveillance. J'essayais de m'assurer que les gens ne me parlent pas trop librement. Et les pilules pour la liberté, je les donnais pas directement. Parce qu'il y avait des situations qui devenaient vraiment très réelles, en fait, d'imaginaire. Et ça, c'est ce genre de travail que j'ai fait comme artiste. En voilà une, ça c'est en Allemagne. C'est une pharmacie de campagne, comme vous voyez. Là, c'est dans une galerie d'art à Bruxelles. Vous voyez les années 74. Une deuxième chose, pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé avec l'imaginaire. Ça, c'est en Allemagne aussi. À l'époque, je vivais à Paris, donc j'étais facilement en Allemagne. Dans un petit village, ce que j'appelais de la signalisation imaginaire. C'est-à-dire que on se réunissait avec les gens du village, mais c'est un village de 200 habitants, pas plus, au café du coin, à côté de l'église ou du temple. Et puis, l'idée, c'est de faire un chant imaginaire. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, ça, c'est donc, on le faisait en allemand. Par exemple, les panneaux qu'on voit en arrière, ici, dans cette réunion de café, il y a Einbildungskraft, qui veut dire l'imaginaire. Il y a Wiese qui veut dire le champ, le pré. Puis après, on a choisi les panneaux qui intéressaient le plus de gens. Les gens les ont peints comme ça et puis on est allé dans un champ. C'est là qu'on a fait le champ imaginaire, une sorte de dialogue en plaçant les panneaux à droite, à gauche, en vis-à-vis, en se tournant le dos. Toutes sortes de discours imaginaires qui s'est installé dans le champ d'une façon donc très, très légère, si je puis dire. Alors, vous voyez, ça donne un petit peu ça. Par exemple, ici, vous voyez, Geld, ça veut dire l'argent. il faut creuser à cet endroit-là. Fantasy, vous n'avez pas besoin que je vous le traduise. En arrière, il y a Zweifel qui veut dire le doute. Puis comme ça, ils ont mis une cinquantaine de panneaux dans le champ. C'était l'imaginaire, y compris les préoccupations politiques, écologiques, etc., du moment dans ce petit champ. Vous voyez, le gars, il y a un gars qui creuse, là, c'est trouver un magot. Par exemple, voilà un autre plus poétique. Der Maler, ça veut dire le peintre, et puis Vautsou, ça sert à quoi? Pourquoi? Alors ça, c'est un travail, disons, d'écriture poétique dans un champ, mais rural, hein. Je veux dire, pas plus rural que ça, il n'y avait pas de galeriste à côté, hein. Là, vous avez Cosmos, pas besoin de vous le traduire. Stehen bleiben, ça veut dire rester là où on est, debout. Puis à gauche, vous avez Erlebnis, qui veut dire un événement, une expérience, et puis en vis-à-vis le doute, Zweifel. Voilà. Alors, j'ai développé ce travail-là, donc, d'art sociologique, comme vous voyez, c'était beaucoup sur l'imaginaire et aussi sur les problèmes politiques. Et à ce moment-là, je ne sais pas si, bien sûr, vous n'étiez pas né à l'époque, mais moi, j'y étais déjà. Dans les années 70-80, c'était la grande époque de l'avant-garde. Et alors, le mouvement artistique de l'époque, c'était que ce qui est beau, c'est ce qui est nouveau, ce qui est inédit, ce que personne n'a encore jamais fait. Donc, il y avait une sorte de surenchère entre les artistes, pour avoir leur nom dans le dictionnaire d'histoire de l'art, de faire quelque chose de nouveau. Alors, faire quelque chose de nouveau, tout a été inventé à l'époque. Il n'y a rien que les artistes n'aient pas imaginé de faire qui n'ait encore jamais été fait. Mais si vous le faisiez le deuxième, si vous étiez le deuxième à faire, je ne sais pas quoi, moi, à faire une tranchée dans le désert du Nevada ou une spirale de cailloux au bord de la mer, ça ne comptait pas parce que ça avait déjà été fait une fois. Et c'était le premier qui avait la célébrité. Alors, cette sorte d'idéologie avant-gardiste, où ce qui est historiquement intéressant, ce qui est de l'art, c'est ce qui est fait pour la première fois, c'était une sorte de bizarre évolution de l'art de cette époque-là, une sorte de crise, de paroxysme. Et puis, évidemment, le serpent s'est mordu la queue assez vite, parce que, à un bon moment, bien sûr, il y a des artistes qui ont fait des boîtes de conserve de merde d'artistes, il y en a d'autres qui ont fait des bocaux d'urine d'artistes, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On se promène tout nu dans la galerie, et puis après, à un moment, le phénomène s'épuise de lui-même avec une certaine morbidité, parce qu'il y a eu à ce moment-là une tendance très morbide dans l'art, et puis ça a été comme une sorte de moment de fin de cette histoire-là et de cette idéologie avant-gardiste. Alors ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce qu'on appelle les mythes et l'imaginaire. Pourquoi est-ce que l'art, qui théoriquement c'est le bateau porteur de l'imaginaire social, pourquoi il arrive à cette sorte de paroxysme, d'hystérie du nouveau et finalement s'épuise dans cette extrémité? Et c'est pour ça que j'avais travaillé sur cette réflexion que l'art à ce moment-là avait comme processus historique, c'était terminé. Mais j'ai continué autrement, avec les signalisations imaginaires. Alors ça, c'est une folie de l'époque, que je vous en dirai un mot, parce que je me suis bien, bien amusé. Vous connaissez la France quand même, le centralisme parisien. Alors naturellement, surtout à l'époque, il y a Paris, puis il y a le désert. Hein. Alors, si vous n'êtes pas parisien, ça vaut franchement... Quand vous êtes parisien et que vous arrivez en province, alors là aussi, vous êtes mal vu, évidemment, parce que, vous êtes le gars qui vient montrer avec arrogance qu'il n'est pas un paysan. Bon. Et il y a, parmi toutes les petites villes, il y a une jolie ville d'Angoulême qui est bien connue maintenant. C'est une très jolie ville sur une colline ancienne, une architecture moyenâgeuse, des petites rues étroites, des ruelles, belles pierres, sorte de pierre blanche, cette région, et qui est sur la route entre Marseille, Toulouse et Paris. Et ce que j'avais fait, j'avais simplement mis... tout bêtement, des panneaux, comme vous voyez ici, qui indiquaient la direction. Mais au lieu que je fasse des panneaux qui indiquaient la direction de Paris puis la direction d'Angoulême, j'avais fait des panneaux qui indiquaient père. Puis Angoulême, j'avais travaillé avec l'idée, c'est la fille, la petite fille. Bon. Et ce qui est assez marrant, c'est, je ne pensais pas que ça marcherait à ce point-là, c'est que tous les camionneurs qui remontent vers Paris... avec les fruits et légumes du sud, etc. Ils se sont mis à suivre. De temps en temps, j'avais recouvert le panneau Paris par pair, je reconnais. Mais j'avais mis beaucoup de panneaux pairs en dehors des autres. J'avais laissé les panneaux Paris. Et il y en a plein qui sont montés dans la petite ville d'Angoulême, qui se sont encastrés dans les ruelles avec leurs poids lourds, parce qu'ils ont suivi la direction de Paris. sans se rendre compte que j'avais marqué père. Et en haut, il y avait les écriteaux filles qui les attendaient, et puis la police qui ne savait plus quoi faire. Et je m'en souviens bien parce que c'était dans un symposium artistique de l'époque, et je m'étais retrouvé devant le commissaire de police qui avait au moins 10 personnes dans un bureau style empire, puis il avait le code, les différents codes qui se sont entassés dans le droit français, il y avait haut comme ça deux volumes, et il me dit « Monsieur Fuchère, savez-vous que vous avez enfreint, je ne sais pas combien, 74 articles de la loi ?» Alors évidemment, il y en avait trop pour que ce soit grave. Mais, vous voyez, le genre, bon, alors je vous le raconte rapidement parce que ça m'amuse d'y repenser. Il y avait à l'époque, les journalistes s'étaient amusés avec ça aussi. Bon. Et comme ça, j'ai travaillé de plus en plus sur la notion de l'imaginaire social. On se rend bien compte que l'imaginaire est omniprésent, même dans les démarches qui sont très élaborées et rationnelles. Et j'ai commencé à travailler sur cette notion que j'ai appelée à ce moment-là la mythanalyse, et dont je vais vous parler un petit peu plus ce soir. Parce que c'est une affaire sur laquelle j'ai commencé à travailler, donc, vous voyez, il y a plus que 30 ans. Je suis arrivé là-dessus à Chicoutimi, symposium international de sculpture environnementale. Chicoutimi, 1980. Donc là, il y avait un symposium d'artistes, et je travaillais avec un atelier d'étudiants du Québec et de France. À l'époque, j'étais sur mon transit, si je puis dire, pour immigrer ici, sur la notion de sculpture imaginaire urbaine avec les gens de Chicoutimi, avec les étudiants, la population. Et puis, on travaillait sur la notion de sculpture environnementale, donc le regard esthétique sur l'environnement. Alors, on commençait à rêver que la voie ferrée, l'espèce de ligne linéaire dont on voulait faire un parc linéaire, devienne un circuit piétonnier, une piste de vélo, etc., ou bien qu'on puisse dégager certaines vues. Il y a eu toutes sortes de propositions. Il y a les gros bidons, vous savez, près du fleuve, là. Alors, il fallait ou les peindre ou les déplacer. Il y a un pont désaffecté à côté du nouveau pont à Chicoutimi, alors en faire un lieu extraordinaire. Donc, tout le monde a voté là-dessus. Comment repenser, avec sa créativité, son imaginaire, Chicoutimi? On était donc en 1980. On a eu un vote, les résultats. Ouais, c'était un petit peu mai 68, à Chicoutimi. Voilà, je continue. Montréal. Qui penses-tu être? Qui voudrais-tu être? C'était le moment où j'avais mon exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, donc d'art sociologique, et puis je voulais faire un travail ici. Et comme j'étais même pas encore immigrant, j'allais l'être, je travaillais sur l'imaginaire québécois, ça m'intéressait comme artiste et comme futur immigrant. Et donc ces deux questions, qui penses-tu être, qui voudrais-tu être, j'avais travaillé un peu avec des entrevues dans la rue, et puis j'ai travaillé avec la presse, en même temps que j'avais mon exposition au Musée d'art contemporain. Et alors, avec la presse, j'ai convaincu à l'époque, c'était Roger Deslandry, de consacrer une page à ces deux questions. Qui pensez-vous être, qui voudriez-vous être? On était en 1980. Ben, croyez-le ou croyez-le pas, j'ai eu plus que 7000 réponses. Tout le monde en a été sidéré, moi le premier. Hein? Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire, les gens écrivaient et puis m'envoyaient ça par la poste. Et j'ai eu tellement de réponses. J'ai demandé à des psychanalystes, des poètes, des romanciers et romancières, bien sûr, à l'époque, le féminisme était très, très, très en puissance au Québec. Pour moi, arrivant de Paris, c'était la découverte. Hein? Parce que je venais d'un pays où c'était bien d'être marxiste, puis j'arrivais ici, c'était bien d'être féministe. Alors donc, je commençais à travailler sur tout ça. Et puis, ces deux questions-là, donc l'identité que les gens pensent avoir et leur identité imaginaire, c'est dans un moment de crise, c'est un moment de très grande crise, il faut dire, au Québec, à ce moment-là. Ça a été un mouvement extraordinaire de réponse. Et donc, avec toute cette équipe-là, vraiment, mais les écrivains et psychologues, sociologues, psychanalystes connus du moment, Julien Bigra, etc., des poètes, on s'est mis à analyser tout ça. Et je publiais dans la presse une série d'analyses de différents thèmes. Alors, c'est un gros événement à l'époque dans le journal. Et puis, j'en ai fait ce bouquin qui est paru ensuite, L'oiseau-chat, parce que ce qui ressortait curieusement, Ça, pour l'imaginaire, c'est quand même assez, ça m'avait quand même assez étonné. Quand on demandait aux gens qui pensez-vous être, qui voudriez-vous être, beaucoup s'identifiaient à des animaux. J'aimerais être un oiseau ou j'aimerais être un chat. C'était une réponse qui venait très fréquemment. L'oiseau pouvait être une mouette ou pouvait être une oie. Ça, il y avait des variations d'espèces, mais c'était les deux dominantes et conjointes, si je puis dire. Hein. Alors, là-dessus, bien sûr, il y a cette réflexion de la double identité québécoise ou de son ambiguïté ou de la partie, on va dire, sédentaire ou casanière et puis la partie missionnaire ou voyageuse. Donc, il y avait cette identité imaginaire des Québécois qui ressortait à ce moment-là d'une façon absolument étonnante. Et ceci pour vous dire que quand je fais l'enquête maintenant avec Le Devoir, c'est une vieille histoire. Je continue un travail que j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Je l'ai fait aussi ce travail à Mexico. En 82, il y avait le Congrès mondial de sociologie à Mexico. 6000 sociologues des 5 continents qui se réunissaient à Mexico pour comparer leur point de vue sur ce que c'est que la société. Alors moi, c'était comme si c'était à Mexico, c'est quand même pas rien, la ville de Mexico en plus. J'avais parallèlement, en 82, je participais à ce colloque, j'avais ce congrès, j'avais travaillé avec le journal local, qui est la presse locale, enfin il y a beaucoup de quotidiens à Mexico, mais la presse, ça c'est un des principaux, sur cette même expérience que j'avais faite ici. Qu'est-ce que c'est que la société mexicaine? Et puis, c'était la page qui était parue dans le journal, enquête des lecteurs qui donnent leur opinion sur ce que c'est que la société mexicaine. Et là, j'ai reçu à nouveau énormément de réponses. Je ne me rappelle plus le chiffre, mais beaucoup. Tout un travail d'animation. Et là, je suis avec El Santo. El Santo, c'est le champion de lucha libre. Au Mexique, c'est très, très important comme symbole social parce que pour toutes les populations pauvres, c'est un peu comme de devenir un sportif. Éventuellement, c'est aussi un rêve pour les jeunes des quartiers défavorisés, devenir un champion de lutte libre, comme El Santo, qui est une sorte de figure symbolique extraordinairement populaire, une des figures les plus populaires au Mexique à l'époque, à travers les clivages partisans politiques. Le fait qu'il travaille avec moi sur cette notion, qu'est-ce que c'est que la société mexicaine, ça avait eu un effet considérable pour catalyser les réponses. Et le Musée d'art moderne de Mexico, j'avais eu la chance extraordinaire qu'il me soit ouvert et libéré pendant 5 mois. C'est-à-dire pendant 5 mois, toutes les salles du Musée d'art moderne de Mexico ont été libérées, sauf 2 salles où la collection permanente était resserrée. Et j'ai eu toutes les salles pendant donc tout ce temps-là pour que les gens puissent entrer et s'exprimer, répondre à la question « qu'est-ce que c'est que la société mexicaine ?» C'était aussi un moment du choc pétrolier, un moment de crise très très grave au Mexique en 83. Et donc déjà, on avait commencé par transformer tout ce bâtiment assez moderne de vitrage et d'aluminium avec du papel picado, des groupes de théâtre, de musique de rue, etc., transformer complètement le lieu pour que les gens osent y rentrer. Parce qu'avant, ils n'osaient pas y rentrer, parce qu'avant, c'était payant, puis ça ressemblait à un bâtiment de la police. Tandis que là, il y avait une ambiance de fou. Alors, vous voyez, le genre d'ambiance qu'on avait réussi à créer là, je veux dire, c'était la folie. Et alors, dans ce mouvement-là, les gens avaient chacun... Il y avait un thème par salle. Par exemple, il y avait une salle. Si vous pouviez changer le nom de votre rue demain matin, comment vous aimeriez l'appeler ? Alors, elle s'appelle rue du Général Machin. Bien sûr, elle s'appellerait bien rue de la Liberté. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Mais là, c'est ce que je dis, c'est un peu simpliste, mais il y avait toutes sortes de fantaisies dans le domaine. D'autres, c'était les monuments imaginaires qu'on aimerait voir dans son quartier, etc. Alors, j'ai appris l'espagnol pour pouvoir faire cette expérience-là, parce que c'était évidemment une expérience très, très populaire. Alors, les gens s'exprimaient sur des feuilles de papier qu'on remplaçait constamment sur les murs. Ça a été un mouvement très, très populaire. Il y a eu peut-être 300 articles dans les journaux, des émissions de radio, télévision. Les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, qui disaient un musée, c'est pas fait pour ça. Un musée, c'est fait pour les artistes, pour les gens qui font des sculptures, des peintures. Qu'est-ce que c'est que ce populisme démagogique? C'est une honte, notre argent pour ça. D'autres qui disaient, enfin, le musée s'ouvre. Alors, une polémique qui faisait partie de mon travail. C'est quoi la culture? C'est quoi pour la société la culture, les clivages, les institutions? Puis après, donc, on a publié là-bas ce livre, La cahier d'Onde Yega, Où va la rue, qui raconte ça avec des reproductions de plein d'expressions de tout ce mouvement qui s'est fait là. Une folie. Alors, c'est ma manière à moi de travailler sur l'imaginaire, avec la liberté de l'artiste, si je puis dire. Et puis, toujours cette réflexion sur laquelle je suis en train d'aboutir maintenant sur ce que c'est que les mythes sociaux fondateurs, principaux d'une société, que ce soit le Mexique ou que ce soit le Québec, que ce soit le Canada. Alors, j'ai fait la même chose aussi avec le droit dans l'Outaouais, quelques années après, je ne sais plus la date, c'est pas très longtemps après. Vous voyez, l'Outaouais réel, l'Outaouais imaginaire, là, on était en 80, mettons, on était en 85. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on est en 2007, et c'est la même chose que je fais actuellement avec le devoir sur le Québec. Alors, le Québec imaginaire, on y arrive. Alors, maintenant, il y a l'Internet. Alors, cette feuille-là, qui a été publiée par le devoir, vous la trouverez à la sortie. Elle a été reproduite, et puis vous pouvez la prendre. Et puis, je vous invite, si vous voulez bien y participer. Je sais que c'est un exercice difficile. Parce que là, c'est pas l'identité personnelle. Ce que je voudrais être riche et beau, je voudrais être un aigle, c'est l'identité québécoise. C'est beaucoup plus difficile, je m'en rends compte, et puis en lisant les textes, je me rends compte que c'est des textes qui sont moins narcissiques, moins personnels, mais ils sont très élaborés, où vraiment les gens qui répondent, j'ai une centaine de réponses actuellement, ce sont des textes... Bien sûr, j'ai des poèmes ou des choses plus légères, mais j'ai beaucoup de poèmes de fond. D'ailleurs, ceux qui ont été publiés par le Devoir, pour ceux d'entre vous qui avaient pu les voir, vous avez vu que ce sont des textes qui... Ça prend du temps, ça prend vraiment un effort pour contribuer à cette enquête. Alors, de ces textes-là qui sont sur le site du Devoir, qui sont arrivés par la poste, mais maintenant, ça arrive surtout par Internet, j'ai la responsabilité d'en choisir dans des limites étroites qui sont ceux d'une page, la page du samedi dans le Devoir, des exemples que j'essaye de choisir d'une façon à la fois choisir les meilleurs textes qui ont le plus de fond et de qualité d'écriture, mais aussi qui ont le plus d'émotion ou d'authenticité ou qui donnent une représentation à peu près équitable des différentes réponses que je reçois. J'ai la frustration de ne pas pouvoir les publier tous dans le Devoir, quoi qu'on va continuer. Mais déjà, ils sont aussi sur le site web. Alors, tous les samedis, donc, ces textes sont publiés. Nous sommes encore loin de nous, le pays des paradoxes, toujours allumé et passionné. Votre main pour ne pas partir complètement, c'est quelqu'un qui s'est émigré aux États-Unis. Ou des dessins. J'aime bien ces deux dessins-là, celui-ci et celui-là. Non, on ne peut pas les reproduire en couleur dans le Devoir parce que la page ne s'y prête pas. Je ne sais pas si dans mon livre, plus tard, je pourrais les reproduire en couleur. Mais vous voyez, c'est quand même des réponses élaborées. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et puis, pour moi, d'abord, premièrement, je respecte profondément ce travail, cette collaboration que je peux faire avec, bien sûr, le lectorat du Devoir. C'est pas les mêmes, peut-être, que le Journal de Montréal. Ou que la presse, mais premièrement, c'est un dialogue qui s'établit avec ces personnes-là. Deuxièmement, c'est pour moi, évidemment, une source d'analyse, de réflexion sur les mythes du Québec contemporain que j'analyse, que j'essaie d'analyser avec le plus d'honnêteté et de perspicacité possible. Vous voyez, là... la feuille d'érable qui devient verte, avec la plume autochtone et puis le drapeau québécois. Ce sont des discours, ces images-là aussi. Et maintenant, je vais arriver à des questions, disons, plus théoriques. Qu'est-ce que c'est que la sociologie par rapport à la psychanalyse et par rapport à la mythanalyse? La réponse, évidemment, sera... assez rapide. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel pour pouvoir poser ma problématique. Bon. La sociologie, aujourd'hui, il faut dire que c'est devenu des analyses de marketing, des analyses de style de vie pour les sondages politiques, là où il y a des contrats importants liés à l'économie et à la politique pour faire fonctionner des pouvoirs en place. des systèmes commerciaux, des systèmes politiques. Par rapport à la sociologie que j'ai connue et que j'ai enseignée à la Sorbonne autrefois, bien sûr, on est dans un domaine pratico-pratique, comme je vais dire, assez parfois trivial, qui n'est pas sans intérêt, mais ce n'est plus la sociologie que j'ai connue quand j'étais petit. Sauf que de toute façon, il demeure que la sociologie, c'est une démarche avec un système de concepts assez précis travaille sur des rapports de force, des catégories sociales, des comportements qu'on peut quantifier avec des statistiques. Et c'est donc, si je puis dire, une mécanique sociale assez quantitative pour pouvoir prétendre être une science. Et c'est plus difficile de faire la sociologie de la poésie. Ça, c'est le premier point dont je suis parti. Et je me suis rendu compte que la sociologie de l'imaginaire, c'était pas une entreprise facile. Je voyais pas très bien quel système de concepts j'allais élaborer qui me permettrait de faire une sociologie de l'imaginaire. Encore que c'est possible, bien sûr, jusqu'à un certain point, sans aucun doute. Mais ça n'a pas été beaucoup fait de toute façon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? Toujours par rapport à mon idée que quand même de formation, d'intérêt, ou d'obsession, comme vous voudrez dire, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire social. Bon, j'ai pas le sentiment que la sociologie peut m'aider beaucoup à avancer dans l'analyse de l'imaginaire social, autrement que d'une façon descriptive, au niveau des symboliques, des rapports de force politiques et sociaux, par exemple. Mais pour ce qui est de la psychanalyse, j'ai lu autant de livres de psychanalyse que de sociologie, même peut-être plus. Et j'ai bien vu qu'il y a des psychanalystes, même quelqu'un comme Freud, qui a beaucoup travaillé sur totem et tabou, sur l'évolution de la civilisation, et qui s'est essayé à aborder une psychanalyse de la société. Sauf que cette psychanalyse de la société, elle est faite à partir d'une pratique clinique individuelle. Autrement dit, l'expérience ou la connaissance ou la base sur laquelle un psychanalyste pourrait construire une psychanalyse de l'imaginaire social, c'est sur une accumulation, un agrégat de notes cliniques, d'observations faites sur nombre de cas individuels, de cas éventuellement d'ailleurs marginaux ou limites ou asociaux ou atypiques, dont il arrive à l'idée qu'en mettant ça ensemble, il pourrait construire une psychanalyse de la société. Mais c'est basé sur les biographies individuelles, et les biographies individuelles relativement atypiques. Peu de psychanalystes ont travaillé, quoique il y en a eu beaucoup de psychanalystes de beaucoup de tendances et de beaucoup d'écoles, mais ont travaillé sur l'idée, par exemple, que on va appeler ça la maladie individuelle, hein, puisque pour Freud, on est tous des malades, c'est pas compliqué. La maladie individuelle, peu ont travaillé sur l'idée qu'elle résulterait du malaise dans la société, c'est-à-dire qu'elle serait le reflet individuel d'une maladie sociale. Et c'est plutôt l'idée que l'analyse des malaises individuels permet une intuition qu'on a tendance, à tort ou à raison, et scientifiquement c'est pas très légitimable, à généraliser à une société. Fondamentalement, l'inconvénient de la sociologie, c'est que ça parle pas de l'imaginaire, c'est pas outillé pour, et que la psychanalyse, oui, ça parle de l'inconscient et de l'imaginaire, mais ça part de l'individu et ce n'est pas outillé conceptuellement et méthodologiquement pour travailler sur l'imaginaire collectif. Alors, bien sûr, il y a des psychanalystes comme Jung qui ont travaillé sur l'inconscient collectif et qui ont construit, à partir de la mythologie en particulier, des appareils théoriques avec, par exemple, des archétypes. Alors, il y aurait des archétypes du père et de la mère, et chacun d'entre nous, on serait pris, mal pris, évidemment, puisque nous sommes tous malades, d'après les psychanalystes, pour gérer notre problème avec l'archétype de notre père par rapport à notre père réel ou de notre mère par rapport à notre mère réelle, sans compter l'inceste. Alors, bien sûr, vous voyez, ce genre de choses a été élaboré de manière plus collective par Jung. Et pour Jung, il y a comme sorte, dans le ciel de la psychanalyse, des archétypes qui sont là, qui qui nous influencent ou par rapport auxquels nous situons et par rapport auxquels nous sommes influencés. Sauf que, pour Jung, par exemple, qui est la grande alternative à Freud, pour Jung, ces archétypes-là sont ahistoriques, asociologiques. C'est une sorte de mathématique universelle. Hein, quelle que soit la société, que vous soyez en Papouasie ou que vous soyez avec les Esquimaux, que vous soyez avec la mafia sicilienne, c'est les mêmes archétypes. Ils ne s'intéressent pas à la différenciation, à la diversité culturelle de ces archétypes. Ce qui l'intéresse, c'est l'unité quasiment transcendantale de ces archétypes. Donc on est absolument en dehors de la sociologie. Je ne peux plus travailler sur l'imaginaire social, par exemple, des Québécois ou des Français ou des Italiens. Je suis dans une sorte d'architecture universelle comme la mathématique qui c'est une sorte d'idéalisme, si je puis dire. L'idée de chat est la même, quelle que soit la culture, pour l'idéalisme platonicien. Alors, on est totalement en dehors de cette recherche que je fais d'essayer de repérer quels sont les mythes particuliers d'une société par rapport à ceux d'une autre, ou d'une civilisation par rapport à une autre civilisation. Donc, c'est vrai que, à force de travailler dans ce domaine, dizaines d'années après dizaines d'années, j'avançais pas beaucoup parce que je me rendais bien compte qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on appellerait une socio-psychanalyse ou une ethno-psychanalyse qui permettrait de fusionner la sociologie et la psychanalyse parce que ça vient de deux points de vue trop éloignés. Même si certains, comme Fromm, ont essayé de faire une sorte de psychanalyse marxiste. Mais même Fromm est quelqu'un qui, finalement, est allé imaginer qu'il y avait une sorte de langue universelle, transculturelle, transhistorique, asociologique, de représentation imaginaire fondamentale, une sorte de langue naturelle. Donc même lui qui était de l'école de Francfort et qui était vraiment un marxiste, en tout cas aussi longtemps qu'il n'a pas immigré aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a fini par inventer une langue universelle de l'inconscient. Un peu à la manière, disons marxiste, mais la même position que Jung, qui est absolument donc aculturel, ahistorique, asociologique. Donc j'étais dans cette situation de continuer avec ce que je vais appeler, pour savoir un peu, pas se prendre trop au sérieux, mon obsession d'essayer de travailler sur les imaginaires sociaux. J'ose pas dire inconscient, parce que ça renvoie tellement à Jung que c'est vraiment difficile de travailler avec ce concept. Alors, pris entre les deux, et voyant qu'il y a eu des tentatives mais qui n'ont jamais abouti, j'en suis arrivé, moi, à travailler sur, suivre mon idée de cet inconscient social spécifique. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les mythologies. C'est passionnant, les mythologies. Il y a des spécialistes de la mythologie qui sont des hommes d'une érudition admirable, qui connaissent tout sur la mythologie des Valkyries, ou grecques, ou égyptiennes, ou Inca, et tant d'autres, qui sont des spécialistes de l'histoire des dieux, des contes et des légendes de telle ou telle population. Et là, ça rejoint naturellement l'ethnographie, et on a des gens extraordinaires. On a même des gens comme Gilbert Durand, en France, à l'Université de Grenoble, qui a développé et publié une anthropologie de l'imaginaire, où justement, à partir de sa connaissance extraordinaire de la mythologie, notamment occidentale, il a travaillé sur des structures anthropologiques de l'imaginaire, essayant d'établir une théorie ou un système qui montrerait comment on deal avec nos imaginaires. Le problème, c'est que, au fond, même si ces gens-là se disent « bon, la mythologie, on est moderne aujourd'hui, mais ça n'a pas complètement disparu, il y a encore des relents de mythologie à notre époque. » Le problème de ces gens-là, c'est que ils sont extraordinairement savants sur les Grecs ou les Égyptiens, mais en général totalement en dehors du monde contemporain. Et nous ne voyons pas, et ça, il faut élargir là le propos, nous ne voyons pas les mythes contemporains. Mon hypothèse, c'est que les Grecs ont inventé toute une mythologie extraordinaire dont nous dépendons encore beaucoup dans notre héritage culturel, ou bien le judaïsme a inventé une mythologie extraordinaire dont nous dépendons encore d'une façon évidente dans notre culture et dans nos croyances contemporaines. Mais nous imaginons, je dis bien nous imaginons, que nous sommes enfin des modernes, des gens, des rationnels, que nous avons éliminé toutes ces superstitions, que nous avons éliminé toutes ces croyances farfelues. Nous ne croyons plus aux fantômes, aux loups-garous, et nous ne pensons plus qu'il faille prier une déesse de fécondité ou des choses comme ça. Enfin, nous sommes des adultes par rapport à l'enfance de l'humanité. Nous serions aujourd'hui dans un monde qui, prétend-on, aurait enfin, grâce à la science et au rationalisme, éliminé la mythologie. Alors je me dis, les Grecs étaient vraiment étonnants parce qu'ils étaient à la fois les inventeurs du rationalisme et puis les inventeurs d'une mythologie extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont jonglé avec les deux mains, avec ces deux performances ? Toujours est-il que, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui n'a plus de mythologie ? Et là, la réponse que je fais, à tort ou à raison, c'est que nous vivons aujourd'hui, sans le savoir, dans un monde qui est autant mythologique que celui des Égyptiens, des Incas ou des Grecs ou des Germains. Il y a autant de mythologie dans le monde actuel qu'il y en a toujours eu. Seulement, nous ne la voyons pas parce que nous y croyons. Ce qui caractérise la mythologie, c'est que nous ne croyons plus dans Zeus ou Jupiter ou le Walhalla. Nous n'y croyons plus, on dit que c'est des superstitions. Aujourd'hui, nous avons autant de croyances comme ça, mais comme nous les croyons vraies, nous ne pensons pas que ce sont des mythes, nous pensons que ce sont des vérités. Ben, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais prenez le cas de quelqu'un qui s'appellerait Hervé Fischer, qui ne croirait pas en Dieu. Ça peut arriver, ça. Ce jeune homme qui ne croit pas en Dieu, il voit partout des églises, il voit des gens qui s'agenouillent, qui mettent de l'argent dans les trucs, qui la main dans l'eau bénite, qui vont à des rituels régulièrement pour les grands moments de leur vie, et puis qui prient. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, la santé, l'argent, la profession, il prie. Bon. Ce jeune homme qui ne croit pas en Dieu, il regarde ça avec curiosité. Et il se dit, en quel Dieu peuvent-ils bien croire ? Qu'est-ce que c'est que cette curieuse mythologie ? Une mythologie tellement forte qu'on construit partout encore des cathédrales ou des mosquées ou des synagogues, parce qu'il y a quand même trois monothéismes extrêmement dominants dans notre époque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mythologie-là ? Pour moi, je vais dire le mot mythanalyste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la mythanalyse, je me dis, nous avons par exemple une évidence que nous avons nos temples grecs, qui sont ici autour de nous, qui sont les mosquées, les synagogues et les églises. C'est évident que nous avons des crucifix partout, y compris à l'Assemblée nationale, etc., etc. Je vois partout autour de moi, et je n'ai pas parlé des accommodements raisonnables, mais j'en parlerai pas ce soir. Nous voyons partout autour de nous des signes visibles des mythologies contemporaines. Sauf qu'on dit, c'est pas des mythologies, c'est des vérités, c'est des croyances infiniment respectables de nos concitoyens, de ma mère, de mon père, de moi-même éventuellement. En fait, une mythologie, c'est un mythe auquel on ne croit plus parce qu'il y a la distance historique. Et les mythes sont là aujourd'hui. Alors, les mythes, ce n'est pas simplement la Sainte Vierge, Dieu, les processions, etc. Et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui dans l'ensemble de notre planète, toutes sortes de religions, de toutes sortes de sectes, etc. etc. Les mythes, il faut élargir la notion de l'imaginaire social, c'est aussi, par exemple, notre croyance actuelle dans une sorte de religion de l'Internet, ou notre croyance dans le néolibéralisme, ou notre croyance dans la consommation. Il y a des personnes qui ont répondu à mon enquête dans le Devoir qui dit « Aujourd'hui, on a remplacé Dieu par la consommation ». Il dit clairement qu'aujourd'hui, ce à quoi nous croyons, ce pour quoi nous sommes prêts à faire des sacrifices, à nous dévouer, c'est pour la consommation. Ce n'est peut-être plus pour Dieu, mais c'est pour la consommation. Et nos temples actuels, c'est peut-être les micros, IGA et autres supermarchés où nous allons religieusement toutes les fins de semaine remplir notre coffre de voiture. Alors, c'est toujours délicat ces choses-là parce que nous sommes dans un monde où on croit tellement à ces mythologies contemporaines que je ne veux vraiment pas contrarier ni provoquer personne. Mais comme ce jeune homme-là dont je parlais tout à l'heure s'y essaye. Et puis, c'est évident que si ça vous gêne, certains d'entre vous, par rapport à l'un de nos monothéismes, par exemple le Dieu chrétien, vous serez peut-être moins gêné s'il s'agit du Dieu de l'islam ou de Jéhovah. Et vous serez encore moins gêné quand vous irez voyager dans d'autres civilisations, de voir d'autres rituels en Chine ou en Inde. Bon. Alors, nous sommes trop près, nous avons le nez dessus et nous ne voyons simplement pas. Alors, ça me permet d'aborder maintenant cette notion de la psychanalyse, de la mythanalyse. Vous voyez, je suis encore lapsus parce que c'est un mot que je me suis... D'abord, c'est tellement vrai que nous n'y croyons pas que nous disons toujours, pour dire que quelque chose est faux, c'est un mythe. Alors, par exemple, ça c'est une page qui est parue dans la presse il n'y a pas longtemps. Un Québec vert, hein, sommes-nous tous des écologistes, c'est un mythe ou une réalité? C'est un sens de dire c'est une fausse croyance, c'est une illusion. Hein. Alors, le mot mythe est dévalorisé complètement dans ce sens-là. Si j'en prends une autre, une affiche que j'ai ramassée quelque part dans un pays d'Amérique latine, hein, mythos que, eh bien, manger du chocolat, ça donne des boutons. Hein, ça donne plus de boutons. Acemas espinillas. Et puis, il faut pas croire à ce mythe. Parce que de manger du chocolat, faut pas croire, c'est un mythe de croire que ça fait partir les boutons de la peau. Hein, c'est parce que cette affiche que j'ai ramassée dans une pharmacie, une belle grande affiche, c'est quand même un investissement de l'ordre des pharmaciens pour dire, ne croyez pas qu'en mangeant du chocolat, vous allez cesser d'avoir de l'eczéma ou des boutons. C'est pas vrai, c'est un mythe. Voilà, ça, c'est la façon dont on dit aujourd'hui, toute chose qui est fausse, on dit c'est un mythe. Mais à ce moment-là, on vit dans un monde complètement faux, parce que des mythes, il y en a partout. Alors, je vais en prendre un autre que tout à l'heure vous évoquiez, parce que ce soir, j'ai été moins intégriste du numérique que je suis quelquefois. L'Internet. Ça, c'est une petite bande dessinée qu'un ami m'a envoyée. Hein. Je ne peux pas travailler parce qu'Internet est trop fascinant. Qu'est-ce que c'est cette fascination pour le monde virtuel, pour la lumière bleutée de l'écran cathodique dans laquelle on s'évade si volontiers? Le monde réel ne m'intéresse plus, je trouve le bonheur seulement dans Internet. Puis-je consulter un site sur votre iPhone avant de retourner à mon cubicule, c'est-à-dire à travailler, j'imagine? Il répond non. Vous voyez, ce monde actuel où il y aurait le monde réel, monde vallée de misère, monde de souffrance, monde de frustration, et puis il y aurait le monde euphorisant de la lumière bleutée cathodique où l'on s'évade sur l'écran d'ordinateur avec l'Internet, soit dans des jeux de rôle où on peut devenir des personnages importants, on gagne des points plus on y va, et puis plus on gagne un standing social, on peut réussir dans ce monde, par exemple dans Second Life, et alors qu'on rate son coup éventuellement ici-bas. Qu'est-ce que c'est que ce monde bipolaire? Il y a une valeur ajoutée pour le monde virtuel, et puis un rejet ou une dévalorisation du monde réel qui demande un effort, qui crée de la souffrance, qui n'est pas magique. Alors, il y a évidemment énormément de pensées magiques, c'est-à-dire d'imaginaires, dans le développement, le succès des technologies numériques aujourd'hui. Et c'est tellement normal, parce que c'est devenu notre puissance instrumentale, parce que la science est complètement numérique, parce que tout ce que nous savons sur la vie, les gènes, l'ADN ou les infiniment lointains du cosmos, ou bien sur les quarks, etc., ce sont tous des fichiers numériques. Quand on modélise le virus du sida, quand on fait des expériences chimiques en ajoutant des molécules virtuelles dans un algorithme, on travaille en fait dans un monde virtuel et qui a étonnamment une capacité instrumentale sur le monde réel. C'est-à-dire que dans le monde virtuel, je vais chercher un pouvoir pour détruire le méchant ou pour développer ma connaissance du gène de la maladie d'Alzheimer ou pour connaître ce que c'est qu'un trou noir. Je vais développer cette connaissance ou pour aller sur la Lune, pour aller tourner et faire des photos sur Mars. Je modélise tout dans le monde virtuel. Je travaille avec des éléments, des appareils électroniques, des logiciels dans un monde complètement modélisé, avec des algorithmes, comme si le monde réel était algorithmique. Et puis, c'est étonnant, ça marche. Donc Dieu existe. Le monde est un ensemble complexe d'algorithmes. Et j'ai jamais été si puissant comme espèce humaine qu'avec ces instruments-là. Et je me prends soudain pour, effectivement, les héros de la superpuissance. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Cyberprométhée, justement avec cette idée que, aujourd'hui, c'est pas le feu volé à Zeus par Prométhée et donné aux hommes qui permet aux hommes de construire le monde, de le transformer, de le dominer, même en souffrant, mais de le dominer. Et c'est finalement le numérique. Le numérique, ça excite Prométhée, plus que le feu. Et nous croyons que nous allons avec ça arriver à maîtriser bien des choses. Et puis le livre précédent, Le choc du numérique, c'est parce que justement, ces technologies numériques, soudain, nous leur avons attribué, à juste titre, une puissance qu'on n'avait jamais connue. Quand on regarde l'évolution de notre pouvoir instrumental dans nos mains, depuis le fémur de mammouth jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de progrès. Vous savez très bien qu'en une génération, il y a eu plus d'inventions que dans tous les millénaires précédents. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce pouvoir instrumental. Puis soudain, il y a l'électricité, qui est encore la maîtrise du feu, et puis il y a les manufactures, et notre puissance instrumentale grandit verticalement. Mais maintenant, avec le numérique, elle sort de l'écran. C'est absolument faramineux ce que nous vivons actuellement avec la transformation des technologies numériques. Et ça, c'est évident que ça excite notre imaginaire. C'est évident que l'Internet, c'est un psychotrope. Ça crée de la dépendance. C'est dur d'appuyer sur le bouton pour éteindre l'ordinateur et de revenir dans sa petite salle, dans sa petite pièce, avec sa tasse de café refroidie pour aller payer ses factures. Dans l'univers bleuté, c'était beau et on y retourne dès qu'on peut. Et les jeunes, évidemment, qui sont des natifs de cet âge numérique, le savent encore plus que nous. Alors, si je continue ma réflexion, là, j'arrive à... Et bien sûr, je vais un peu vite parce que, je ne sais pas, vous résumer quelques années d'errance, si je puis dire, en une heure. Mais à ce moment-là, j'arrive à cette idée que ce qui détermine notre organisation sociale, nos valeurs, nos structures mentales, y compris, par exemple, le rationalisme, c'est l'imaginaire, et non pas le contraire. On n'a pas un monde où il y a Dieu, le vrai, le bien, le beau, la raison, avec un grand R, et puis le diable, l'imaginaire, le péché, etc. C'est vraiment, le rationalisme, par exemple, est un produit de notre imaginaire. C'est une construction imaginaire, nous nous mettons à croire en la raison, parce que la raison est extraordinairement efficace, et parce qu'effectivement, elle nous libère d'un excès de superstition et d'obscurantisme. Je ne suis pas en train là, de sous-estimer ce que nous devons à la raison et au siècle des Lumières. Ça a été un grand, grand, grand moment de l'Occident, de libération et de création des notions de liberté, de lucidité, c'est un mot mythique, évidemment. On est toujours avec la lumière. Mais ce n'est plus la lumière de Dieu, c'est la lumière des hommes. Le siècle des Lumières, c'est la lumière des hommes. Alors, quand je regarde l'Occident aujourd'hui, je me dis, c'est curieux ce monde dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, qui nous influence tellement. Et j'en arrive à l'idée, c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans mon dernier bouquin, Nous serons des dieux, que nous avons deux mythes fondateurs, et apparemment incompatibles. C'est le mythe grec, c'est-à-dire le mythe de Prométhée qui réussit à tromper la vigilance de Zeus et qui réussit à donner aux hommes, à nous, le feu, c'est-à-dire la puissance instrumentale et la conscience. Ça, c'est le mythe grec de conquête. C'est le mythe grec affirmatif, positif. Parce que dans le mythe grec, Dieu est vaincu par Prométhée et par l'homme. C'est l'homme qui sort triomphant avec le feu de Zeus dans les mains pour construire le monde. Ça, c'est un mythe conquérant, positif, volontariste, proactif. Puis vous avez le mythe judéo-chrétien. Alors là, c'est Dieu qui est triomphant. Et il chasse l'homme du paradis terrestre, il le condamne à la souffrance, à la vallée de misère, et il lui dit que plus il va souffrir, plus il a des chances d'aller dans le paradis après sa mort. Et là, La pomme, qui est l'équivalent du feu, c'est-à-dire à nouveau la conscience du bien et du mal, c'est le péché. Il aurait fallu que l'homme reste innocent, ça je tenais un mot gentil, ou bien sans cerveau, sans conscience, pour continuer à être béatement heureux dans le paradis terrestre. À partir du moment où il prend acte de liberté, de contestation, et sous l'influence de Satan que l'Occident a diabolisé, évidemment, qui est l'équivalent de Prométhée dans la religion catholique, dans cette perspective-là, l'homme est définitivement à genoux, définitivement dévalorisé. Une petite âme et un grand corps. Et puis, il est empêtré dans ce grand corps qui est source de tous les péchés et dans les vanités. Et ce n'est pas le monde qu'il faut qu'il transforme pour gagner le paradis qui est annoncé, c'est son âme. Alors, on a un mythe de conquête fabricatrice triomphante, humain, puis on a un mythe de défaite de l'être humain, de dévalorisation du monde d'ici-bas au profit d'un paradis imaginaire. Alors ces deux mythes-là, le grec et le judéo-chrétien, disons le judaïque, les autres c'est des déclinaisons islamiques ou chrétiennes du mythe judaïque, ce sont deux mythes qui apparemment ont fait les deux choix contraires. Et c'est sur ces deux mythes opposés, contradictoires, que l'Occident s'est bâti. Parce que nous pensons encore en grec, et nous sommes encore, même Hervé Fischer qui ne croit plus en Dieu, il est encore complètement sous l'influence des valeurs chrétiennes, du catéchisme qu'il a appris quand il était petit, etc. Alors, c'est ça, les deux piliers de la civilisation occidentale dont ont dépendu en réalité toutes les déclinaisons, c'est-à-dire nos croyances dans le rationalisme, qui est une suite de la théologie, notre désir de conquête, car l'Occident a été une civilisation de conquête, et Dieu sait s'ils en ont abusé, de transformation par le travail, par les machines du monde. Et en même temps, nous sommes des conquérants et nous sommes des pêcheurs. Alors, cette tension-là, ou cette déchirure-là qu'il y a fondamentalement dans notre civilisation occidentale, et dont on ne retrouve pas du tout l'équivalent, autant que j'ose le dire, parce que je ne suis pas un érudit, dans les cultures africaines, ou dans des cultures asiatiques ou indiennes. Ça, c'est caractéristique de la réussite et de la névrose occidentale. Et nous sommes encore dedans complètement. Et le rationalisme occidental n'aurait pas pu se construire sans les Grecs, Socrate, Aristote, et sans la théologie chrétienne du monothéisme. Et l'Occident n'aurait pas été si doloriste sans la religion chrétienne et en développant cette spiritualité-là. Alors là, on se rend compte que deux mythes qui ont encore, même si on dit, ça c'est, bon, d'abord les gens disent, ça c'est les Grecs, c'est de la mythologie, puis quand on parle du monothéisme, c'est des croyances réelles, véritables, respectables et actuelles, etc., etc., et on construit encore des églises pour eux. Donc on ne construit plus des temples pour les dieux grecs. Mais nous sommes dans cette situation de dichotomie, de tension, et d'une richesse extraordinaire, parce qu'il nous faut résoudre ces deux systèmes de valeurs, ces deux représentations-là. Alors, il est évident que le monde numérique, cette technologie extraordinairement puissante que nous développons à une vitesse exponentielle, vient s'inscrire dans cette civilisation-là, avec le relent du monde virtuel, c'est-à-dire un ailleurs meilleur, valeur ajoutée, et puis une valeur instrumentale de transformation du monde dont nous usons. C'est typiquement la bipolarité des valeurs du monde numérique actuel. Et je crois que là, vraiment, on se rend compte que c'est l'imaginaire qui domine le monde et que ça vaut la peine d'être analysé et que ce n'est pas par la psychanalyse de Moïse ou de Léonard de Vinci ou par la sociologie de Durkheim ou de Marx seulement qu'on peut comprendre le système dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. C'est au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire des mythes fondateurs, que je crois nous pouvons développer des perspicacités, développer une compréhension de où et quand sommes-nous, ou en Occident et quand. Aujourd'hui, 2000 ans, 2500 ans, 3-4 000 ans après ces deux mythes-là dont nous dépendons encore tellement, même si on est athée, même si on est qu'on soit communiste ou qu'on soit tailleur de chardaniste, si je peux dire ça, etc. etc. Alors ça, c'est les idées sur lesquelles j'ai travaillé dans ces deux livres-là, qui sont les deux derniers que j'ai publiés. Alors, quand je dis la société sur le divan, c'est clair que, justement, tout à l'heure, je le disais, mon patient, si je suis psychanalyste, dès lors que je sais qu'il va me payer mon offrande trois fois par semaine, je le mets sur le divan et je l'écoute. Et puis, il y a différentes pratiques psychanalytiques. Et puis, à la fin, théoriquement, son cas est pire qu'avant. Bon, avec la société, je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas allonger la société sur le divan. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de, justement, repérer, décrire, caractériser ces mythes contemporains sur lesquels nous construisons, nous pensons, nous imaginons, nous avons notre sensibilité, notre relation intersubjective, ça se construit. Comment repérer cela ? Alors, vous avez vu mon bricolage. Je vous ai montré avant mon travail d'artiste, tantôt farfelu, tantôt peut-être un peu plus élaboré méthodologiquement. Mais finalement, ce que je crois, et c'est ce que je dis dans ce bouquin-là, c'est que la société, on peut l'écouter. On peut l'écouter au niveau de ses discours collectifs. La publicité, c'est un discours collectif. La politique, c'est un discours collectif. Les débats de la commission, dont je ne dirai pas les noms, c'est un discours collectif. On peut l'écouter. Les réponses que je reçois dans cette enquête sur le Québec imaginaire, qu'est-ce que le Québec réel, quel est votre Québec imaginaire, c'est du discours collectif. Et je rassemble ces textes-là. J'y décèle des redondances, des répétitions significatives, ou bien j'y décèle une intuition qui est dite une seule fois et même sans insistance, mais qui me donne à réfléchir. On peut être à l'écoute d'une société aussi bien que d'un patient. Donc, c'est cette écoute-là qui est celle dans laquelle je me suis mis et pour laquelle j'ai élaboré cette sorte de méthodologie dont je vous ai parlé pour commencer, qui fait que on arrive éventuellement à construire des hypothèses comme celles que je vous ai mentionnées, qui valent ce qu'elles valent, qu'on pourra toujours corriger, améliorer, nier, comme tout ce qui se fait dans la réflexion humaine et dans la philosophie. Mais c'est évident, à ce moment-là, je me dis, quand Hegel dit « tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel », je me dis, bon Dieu, c'est gros de dire ça. Croire ça, et puis que ce soit devenu un des fondements de l'Occident moderne. Hein ? Que tout ce qui est réel est rationnel. Réfléchissons un peu, c'est un gars qui construit un rationalisme idéaliste total, totalisant. Et quelqu'un qui croit ça, il fonde complètement le rationalisme scientifique, il fonde le positivisme. Si tout ce qui est réel est rationnel, mais aujourd'hui je ne peux plus dire ça, parce qu'il y a les logiques floues, il y a les théories de la catastrophe, du chaos, etc. Alors je vais dire aujourd'hui, si j'ai bien compris, tout ce qui est réel est algorithmique, puisque avec des algorithmes et des ordinateurs, on arrive à lire, et lire d'une façon pertinente, puisque ça fonctionne. Alors, le mythe d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que Dieu, ce n'est pas un grand horloger ou une sorte d'organisme, d'organe maternel d'utérus cosmique, ou c'est pas un mécanisme d'horlogerie suisse, comme disait Voltaire. Aujourd'hui, le grand Dieu est un informaticien. C'est le grand algorithme. Il ne faut pas s'étonner qu'à ce moment-là, nous soyons dans une sorte de rêve de puissance et de lecture scientifique, et de croyances. Ce sont ces questions-là. Je ne dis pas que je ne vous dirai pas que je suis convaincu moi-même de toutes mes réponses par rapport à ça. Mais j'ai le sentiment que je m'en vais là dans une réflexion où je travaille sur l'essentiel. Pas sur les repousses, mais sur vraiment les racines de notre imaginaire et l'image que nous avons de nous-mêmes et de notre société. Et ce que nous croyons être la légitimité de nos valeurs et qui donne du sens là où on veut aller. Alors, quand j'arrive à une enquête sur le Québec imaginaire ou le Québec réel, je me repose ces questions à travers les textes que je lis, ce que j'écoute, quand j'y écoute au sens mythe analytique du mot. Quels sont les mythes identitaires qui font que le Québec existe? Avec une hypothèse, pour exister, il faut une racine identitaire. Hypothèse que je peux contester complètement, comme je vais vous le montrer. Mais première hypothèse, pour exister, pour qu'il y ait un consensus social, qu'il y ait une paix sociale et qu'il y ait finalement une société qui fonctionne, il faut qu'il y ait un accord sur un commun dénominateur qui est de partager un héritage commun qui est lié à l'histoire, à la culture, etc. Alors, quel est le mythe qui pourrait justifier qu'on parle aujourd'hui du Québec comme un pays, une nation, et qui éventuellement deviendrait indépendant? Et si je le trouve, ou si je ne le trouve pas, ça va changer ma position politique, évidemment. Est-ce que je vais le trouver aujourd'hui dans les mythes amérindiens? Si je suis amérindien, bien sûr. Mais moi qui ne suis pas, je vais dire comme tout le monde, bêtement, ben, ça c'est des mythologies, les Amérindiens. Ils croient encore dans les esprits d'Émilie Carr, dans les arbres et dans les montagnes. Je suis adulte, je ne crois plus à ça. Bon. Alors c'est très intéressant comme héritage culturel, ça mérite le respect, c'est partie de notre diversité culturelle, mais je ne vais pas fonder sur les mythes amérindiens la notion de nation québécoise et son futur. Bon. Vrai ou faux, hein? J'écoute ce que dit Hervé Fischer là-dessus, donc je ne suis pas convaincu qu'il ait raison. Deuxièmement, comme je suis né moi-même à Paris, je me dis, ah ah, la différence du Québec par rapport à l'ensemble nord-américain, ce sont les mythes européens et spécialement français, notamment le catholicisme, et c'est je me souviens, qui fait la différence du Québec par rapport aux autres provinces du Canada ou à l'Amérique du Nord, même si l'Amérique du Nord et le reste du Canada y viennent aussi d'autres pays européens en général, de moins en moins exclusivement, mais à l'origine, oui. Et je vais me dire, je vais fonder ma distinction, ma différence, et donc mes valeurs et le sens de mon aventure, et ma volonté politique, sur mes mythes d'origine française. Encore faut-il que je sache ce que c'est, et en général, plus personne ne sait beaucoup ce que c'est. Hein. Ce n'est pas le débat droite-gauche qu'il y a en France qui est très éclairant là-dessus, et tout le monde n'a pas fait de la mythanalyse de la société, de la civilisation occidentale européenne. Alors, c'est assez flottant. D'ailleurs, quelqu'un comme Gérard Bouchard, de la commission dont je n'ai pas cité le nom, dit que notre catastrophe du Québec, c'est de vouloir encore croire à ces mythes européens. Nous n'y sommes plus. Ce qui est vraiment un élément, un ciment qui va pouvoir éventuellement, et où il faut qu'on migre, qui va pouvoir créer le consensus québécois, le commun dénominateur qui fait qu'on veut rester ensemble et on veut rester distinct, c'est le mythe nord-américain. Et il faut que nous développions notre mythe québécois nord-américain. Alors évidemment, le mythe québécois nord-américain, il est vraiment aux marges du mythe du Nouveau Monde au sud de la frontière, et qui est le mythe de la création d'un Nouveau Monde. Alors c'était avant Bush, hein, c'est-à-dire démocratique, etc. Et la Statue de la Liberté, on en est bien loin maintenant. Toujours est-il que c'est ce mythe-là qui est fort. Et donc, moi, je vais être entraîné dans ce mythe-là. Et donc, vous savez bien, dans le débat familial, est-ce que les Québécois sont plus proches du reste du Canada ou des Nord-Américains, des États-Unis? Est-ce qu'on aime mieux l'oncle ou bien le père obligé? Eh bien, ces débats-là ont eu lieu. Actuellement, c'est difficile de s'identifier pour beaucoup d'entre nous au mythe du Nouveau Monde nord-américain version Bush, mais ça peut changer, hein, et ça a été différent avant. Disons, en tout cas, c'est un autre élément de ma navigation. Maintenant, je suis au Canada. Au Canada, on a développé une idée très moderne, très intéressante, qui dépasse tous ces nationalismes étriqués et dangereux. C'est le multiculturalisme. Alors, est-ce que le multiculturalisme est fiable ? Est viable. J'aimerais mieux dire viable. Qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme? C'est une position théorique, intellectuelle, on va dire à la Trudeau, qui essayait, indépendamment des stratégies politiques pour banaliser l'identité française dans l'ensemble canadien, qui fait quand même partie de façon bien connue, documentée, du développement de ce concept de multiculturalisme, c'est au fond l'idée de nier qu'il y ait la nécessité d'avoir un seul mythe collectif pour une société. Nous sommes maintenant des grands garçons, nous pouvons vivre ensemble, juxtaposés, avec du respect pour la diversité qui est une richesse culturelle, historique, imaginaire, etc. Et avoir un voisin qui soit indien, qui soit autochtone, qui soit asiatique, qui soit etc. Et là, nous avons un stade supérieur de civilisation qui serait notre capacité de vivre dans cette nouvelle version où nous avons coupé les racines, ou bien en tout cas nous en gardons une, mais nous avons un contact immédiat et enrichissant avec les autres mythes. La question, c'est que là, franchement, ce que dit le multiculturalisme, c'est qu'il faut vraiment en finir avec toute idée d'avoir un mythe rassembleur, identitaire pour un groupe social. Est-ce que c'est possible de construire ce modèle? On voit très bien que ça ne marche pas, puisqu'on voit très bien que, jusqu'à date, parce qu'on voit très bien que ça donne quoi? Ça favorise le développement de tribalisme, comme on appelle ça en sociologie contemporaine, de communautarisme qui reste enfermé sur eux-mêmes et qui en fait ne communique pas tellement avec les autres et qui reste juxtaposé, qui reconstruisent chacun leur petit mythe fondateur de village, de tribu, de communauté. Alors donc on a la multiplication de juxtapositions du système qu'on dénonçait, qui est, et plus il y a le contact avec des mythes différents, plus chacun se resserre sur son clocher de village, si je puis dire. Et on a à ce moment-là des réapparitions de presque intégristes de culture communautariste locale, tribale. Alors on est dans une sorte de multitribalisme. Est-ce que c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce modèle ne marche pas définitivement pas? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux absolument pas dire ça. Je dis que c'est très audacieux. Et s'il faut plus qu'une génération pour pouvoir le juger, si c'était vers ça qu'on s'en irait planétairement, pourquoi pas? Ce n'est pas moi qui aurais la force de changer ça. Mais à ce moment-là, je suis dans une réflexion sur un tout à fait autre modèle de civilisation ou de dialogue des civilisations qui ne ressemble pas à ce que j'observe pour l'instant, qui va plutôt dans la tendance opposée. Mais le débat existe. Je comprends très bien qu'on puisse affirmer que le multiculturalisme est une valeur supérieure à la tradition des mythes identitaires de village, si je puis dire. Mais à ce moment-là, évidemment, c'est une question d'échelle, parce qu'on essaie de créer un mythe collectif canadien et on refuse un mythe collectif québécois. Le mythe collectif canadien est important de développer pour ne pas être aspiré dans la spirale des États-Unis. Si le Canada n'a pas envie de devenir un État des États-Unis, il va bien falloir qu'il continue à développer et qu'il construise une identité canadienne qui est pour l'instant extrêmement volatile et fragile, et je dirais même bien plus difficile de lui prédire un grand avenir que l'identité québécoise, parce qu'on sait bien que la citoyenneté canadienne, une fois qu'en dehors du serment à la reine, c'est très mince. Géopolitiquement ou culturellement, c'est très difficile qu'à terme, d'ici 10 générations, l'identité canadienne puisse résister à la puissance de l'identité des États-Unis, à moins qu'il y ait des grands changements, qu'on soit capable de créer, par exemple, une identité canadienne. Alors, comment est-ce qu'on va créer une identité canadienne sur le multiculturalisme multicommunautariste? C'est un grand défi. Mais ce sont des questions fondamentale. Et c'est là-dessus que se joue, à mon sens, l'avenir du Québec ou l'avenir du Canada ou l'avenir de la planète à certains égards, au-delà, disons, des aléas anecdotiques du moment, du gouvernement qui est en place, etc. Et c'est clair que nous avons à nous poser ces questions-là. Alors, est-ce qu'on va être capable, dans une pensée qui est peut-être celle d'un impérialisme dominateur, nous en remettre à des valeurs qui soient triviales et de consommation? Tout le monde avec son barbecue et sa télévision et sa grosse voiture et 2 voitures s'il faut, puis 3 portes de garage si c'est possible, et qu'avec ça nous allons donner du sens au projet de notre société, être capable de maintenir une différence, disons, d'une communauté par rapport à une autre, ou est-ce que nous allons aller vers une sorte de société planétaire. Moi, je ne crois pas à la société planétaire du point de vue démocratique. Alors là, je prends position, et c'est une position, on va dire, politique et pas mythanalytique. Je crois que la démocratie implique des proximités, une échelle humaine, et que nous ne sommes pas du tout prêts pour nous en remettre à un grand édifice avec plein d'ordinateurs, qu'il soit à Washington ou qu'il soit à Pékin, qui va gérer le monde d'une façon équitable et respectueuse de la diversité culturelle, de la richesse, etc. Je ne crois pas à ça. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas du tout mûr pour ça. Donc, ce sont des questions qui sont d'ordre sociologique, d'ordre politique, qui dépassent de beaucoup ma pharmacie Fischer dont je vous parlais au début, mais c'est au fond, là, à mon sens, que sont les enjeux. Je dirais les enjeux politiques du monde actuel, bien au-delà de la question des accommodements. Est-ce que nous allons être capables d'évoluer? Il me semble que les mythes ne sont pas forcément des fatalités. Les mythes sur lesquels nous avons bâti l'Occident, ça a été des choix. Ça a été le choix d'un pharaon, d'un empereur, d'un prophète. Ça a été des choix marginaux qui finalement ont été adoptés par un empereur romain, etc. Mais où ça a été Hérodote, où ça a été Homère, des poètes ou des hommes politiques, les mythes sont des choix. Les mythes, ce n'est pas comme ça, comme le monde est là, la montagne est là, comme disait Hegel. Les mythes, ce sont des êtres humains qui les fabriquent et qui sont orchestrés par des groupes sociaux parce que ça leur convient historiquement à ce moment-là, au point de vue politique, etc. Alors, pour changer le monde, il faut changer de mythe. Si le monde dans lequel nous vivons ne vous plaît pas, si vous le trouvez, comme moi, absolument scandaleux et insupportable au point de vue de la justice humaine, au point de vue de l'exploitation du Sud, etc., etc., comme je le pense profondément, il faut changer le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut puiser dans le monde chrétien des valeurs de charité? Si elles sont collectives, oui, parce que le monde chrétien, c'est le salut individuel. Donc, il faut changer ça aussi. Ce sont ces questions-là qui font que... C'est là vraiment que se situent les questions essentielles. Alors, ici, au Québec, on est passé de la religion... En une génération, on est passé de la religion catholique, un clocher tous les 200 mètres, à la religion de la communication. Ça, c'est la tour à côté de la Radio-Canada, que vous connaissez bien. Ce sont ces questions-là qui se posent aujourd'hui. La communication, par exemple, est-ce que c'est noyer le poisson dans l'eau ou bien est-ce que c'est développer des diversités, des différences et des dialogues? Toutes ces questions-là relèvent de nos imaginaires, de nos attitudes. Et très modestement, comme vous pouvez bien imaginer, je ne me prends pas pour le bon Dieu ni pour un encyclopédiste, j'essaye de comprendre des mécanismes. Je crois que les mécanismes les plus importants, et le mot mécanisme est une métaphore qui évidemment est non pertinente. Disons, les fondements, si je prends le mot racine, c'est une autre métaphore qui est aussi peu pertinente. Toujours est-il qu'on ne peut pas penser sans métaphore. Mais toutes ces questions sur lesquelles se joue notre avenir aujourd'hui, nos valeurs, nos choix pour la simplicité volontaire ou pour la consommation, pour l'écologie ou pour l'enrichissement, pour le libéralisme, ultralibéralisme ou pour le etc., etc., sont liés à ces questions imaginaires. C'est vraiment l'imaginaire qui mène le monde. Il faut donc le comprendre. Et c'est ce pourquoi nous ne sommes pas encore outillés. C'est sur quoi nous n'avons pas encore été capables de développer vraiment des outils théoriques. Je ne dis pas que la psychanalyse et la sociologie soient des merveilles définitives, je les ai critiquées. Mais en tout cas, nous sommes en défaut d'outils conceptuels et d'attitudes intellectuelles pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ça que je voulais essayer de partager avec vous ce soir. J'espère qu'il reste un petit peu de temps pour quelques méchantes questions. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Alors, c'est votre tour. En attendant que vous vous lanciez dans le débat éventuellement, donc vous dire que il y a donc à la sortie la page du devoir qui a été reproduite, qui est là, plus vous répondrez ou proposerez à des gens que vous connaissez de répondre, plus on aura une matière à réflexion riche, intéressante. Et puis, effectivement, ces questions-là, je vais essayer de les articuler, de les développer dans le prochain livre. Ça ne va pas s'appeler « Le Québec sur le divan », parce que ça, ce serait trop provocant, mais ça va s'appeler quelque chose du genre. Hein, ça va être lié à l'imaginaire québécois. Et puis, évidemment, je vais essayer de citer beaucoup les propos des uns et des autres, des documents que j'aurais reçus, avec le maximum d'honnêteté dont je suis capable. Mais je vais essayer aussi de donner un fil conducteur qui puisse contribuer, finalement, pas tant au débat d'aujourd'hui, qui est un débat, il y en a eu, il y en aura d'autres, mais qui est un exemple où on peut essayer de comprendre comment la méta-analyse, s'appliquant à un cas particulier, comme le Québec, c'est quand même un cas plus circonscrit que la civilisation occidentale sur laquelle j'ai travaillé dans la société sur le divan, comment ça fonctionne, quel est notre imaginaire actuel et en conséquence de quoi, quelles sont les vraies questions qui se pose. Alors ce livre-là devrait, j'espère, paraître au printemps prochain. Oui, madame.
Moi, je suis grand-maman.
Peut-être aller au micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Ce serait gentil à vous. Merci.
Moi, je suis grand-maman. Puis je regarde mes trois petits-enfants. Puis je me pose des fois des questions à savoir. Il y a tellement une différence maintenant.
Je vais vous baisser un peu le micro pour que.
OK. Je m'excuse. Voilà. Bon, je vais recommencer. Je suis grand-maman, puis j'ai trois beaux petits-enfants, j'adore.
Oui. Bravo.
Et puis, je me dis, quand je les regarde, puis je les vois aller, jusqu'à quand je vais pouvoir vraiment être en contact, à échanger avec mes petits-enfants, parce que ça va vite tellement, l'évolution. Et ce que moi, j'ai acquis, que j'ai pu avoir, ça sera plus à le, ça va être dépassé, puis eux s'en vont vers quoi? Est-ce qu'on peut prévoir, penser, est-ce qu'on peut faire quoi face à ça? Quelle est l'attitude qu'on devrait prendre aussi? Parce que, comme vous dites, ça nous échappe, ça passe.
Oui, mais la question, elle me concerne aussi. Aussi, j'ai des petits-enfants. Et puis, je suis bien content de pouvoir communiquer, parce qu'ils vivent dans d'autres pays, parce que c'est comme ça maintenant que ça fonctionne. Puis c'est moi qui leur ai dit « Découvrez le monde ». Puis maintenant, je me retrouve... heureusement qu'il y a l'Internet. Hein. J'ai les photos, j'ai les vidéos. Bon. C'est curieux, je vais vous dire... Ça va être un détail par rapport à votre question qui est beaucoup plus large. Mais c'est curieux, l'intimité de la relation que je peux établir par Internet par rapport à ce que j'aurais pu faire par courrier ou même par rapport à la communication relative que je peux avoir avec eux quand je suis avec eux... pendant les vacances, par exemple. Il y a là un effet magique de la communication Internet que les amants connaissent aussi. Hein. Personne de vous n'a eu une maîtresse à l'étranger, mais si ça vous arrivait, moi non plus, bien sûr, mais on m'a dit que c'est extraordinaire ce qu'on peut développer comme sentiment amoureux, virtuel, sans la résistance du réel. Il y a un phénomène de magie communicationnelle extraordinaire avec l'Internet. Bon. La deuxième chose, c'est que effectivement, on dit... Maintenant, c'est devenu une carte postale. Il y a les immigrants, comme vous et moi, qui s'y sont mis, plus ou moins. Et puis, il y a les natifs, hein, qui sont nés avec l'ordinateur au-dessus du berceau à 6 mois. Les jeux électroniques, ça, c'est fou, les jeux électroniques. Et puis, ces enfants-là sont dans un monde virtuel, et ils sont dans les jeux. Et puis, on voit à quel point ils sont dans les jeux. C'est absolument... incroyable de voir les enfants, même très jeunes. Moi, je vois mes petits-enfants, j'en ai de plusieurs âges. Ils sont dans les jeux, mais alors à un point extraordinaire. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de ça, de cette rupture ou de cette distance générationnelle. C'est vrai que historiquement, on n'a jamais, je crois pouvoir le dire, à ce point connu, une éventuelle disjonction générationnelle. C'est ce qu'Alvin Toffler disait déjà avec le choc du futur, hein, bien avant moi, c'est que l'accélération du changement, j'ai évité le mot progrès parce que ce sera un autre débat, du changement de l'environnement technologique, communicationnel, des changements des références à l'espace et au temps, hein, avec les avions et les communications, etc. Jamais je crois que ça ne s'est trouvé à ce point à la base même de l'expérience familiale. Nous ne sommes pas préparés à ça. Nous, ça nous angoisse, nos enfants et petits-enfants, manifestement pas. Bon. Mais pourrais-je dire que ça va peut-être nous sauver du professeur Freud beaucoup de jeunes enfants qui auront pu se défouler dans les jeux, qui auront échappé à la névrose familiale, puisque toute famille est un enfer, avait dit le professeur, parce qu'ils peuvent aller justement sur Internet, ils ne sont pas obligés d'être à table à la même heure que les parents, de penser les mêmes choses, etc. Enfin, toute cette promiscuité familiale qui a été peut-être une grande chose et un cauchemar. Si j'en vois les psychanalystes et les écrivains, les romanciers, on voit que cette sorte de promiscuité familiale ou de cette routine ou répétition familiale où les parents se sentaient légitimés à imposer leur savoir, leur autorité, leurs valeurs, leur comportement, tandis qu'aujourd'hui on hésite parce qu'on se rend bien compte que c'est eux qui sont actuels et que nous on est déjà ringards. Je parle pour moi, pas pour vous, bien sûr, madame. Cette différence-là est peut-être porteuse positivement. Donc, je serais très hésitant à faire des jugements négatifs. Moi, j'ai passé des heures à apprendre le latin. Bon, certainement, ça a été très utile pour moi, comme faire du sport, c'est bon. Hein, ça m'évitera peut-être l'Alzheimer. Mais la combinatoire mentale, la rapidité de réaction des jeux avec le joystick, les jeux de stratégie dans lesquels ils sont avec l'ordinateur, c'est quand même une gymnastique mentale extraordinaire. Bien sûr, ça développe la pensée magique. Mais jusqu'à quel point vont-ils s'y laisser prendre à ce miroir aux alouettes autant que nous? Parce que pour nous, c'est tout à fait nouveau. Mais pour eux, c'est presque banal. Nous ne croyons plus à ce que nous voyons à la télévision. En 1950, on y croyait. Alors, peut-être que là, ils vont aussi apprendre à banaliser et à replacer à sa place plus modeste ce qui, pour nous, aujourd'hui, est la nouvelle église Internet. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais je ne suis pas pessimiste pour ça. Puis, je suis même étonné par un phénomène que disent les spécialistes. Les jeux vidéo que l'on vend pour les enfants. Bon. Vous savez, on écrit toujours la catégorie de 6 à 12, etc. Eh bien, depuis 10 ans, les jeux ont gagné une tranche d'âge. Vous vendez maintenant, ça intéresse des enfants qui ont, par exemple, 6 ans, des jeux qu'on donnait avant, il y a 10 ans, ou 5 ans même, à des enfants qui avaient 2 ans de plus. Alors c'est comme le sexe, il commence ça à 6 ans. Bon, je ne sais pas que c'est bien ou c'est mal, je ne vais pas parler du progrès, mais je veux dire qu'il y a là des phénomènes extraordinaires qui sont liés là vraiment à l'accélération du temps et à une transformation de notre monde, disons, d'atomes, de matière, de lenteur, de pesanteur, dans un monde d'une sorte de légèreté virtuelle. Sauf que peut-être qu'il faut être lent pour penser d'une façon juste. Peut-être qu'il faut être pas tout le temps stimulé pour penser. Hein? Quand je vois dans un café un écran de télévision avec des vidéoclips, avec un rythme des images tellement rapide que il n'y a aucune histoire. Hein? C'est du couper-coller impressionniste. Si j'essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive à la fille et au gars, je suis déjà rendu dans une Formule 1, puis là je suis rendu avec un ours blanc, en 30 secondes. Il n'y a plus de linéarité. Bon, la linéarité, ça a été formidable pour développer le rationalisme. En même temps, c'est une ligne Maginot par rapport à la créativité, par rapport à l'imaginaire. Alors, je me rends bien compte que peut-être on va dans une sorte de nouvel obscurantisme où on est plus dans les émotions que dans la pensée élaborée qui est pesante, qui est lente, qui... Bon. Est-ce qu'effectivement, on s'en va dans ce genre d'obscurantisme émotif à haute vitesse? Quand on voit les enfants qui dans les arcades, les enfants, les jeunes, qui font de la compétition de Formule 1 dans les arcades, puis qui après se lancent dans les lignes droites avec des vieux tacos et qui se foutent en l'air, on voit bien qu'ils font pas bien, qu'ils ne font pas la différence entre le principe de réel et le principe de désir, comme dit le professeur Freud, hein, et ils se cassent la pipe. Mais ils vont sûrement apprendre. Alors, c'est peut-être intéressant que nous n'ayons pas de réponse, parce que c'était casse-pied quand on avait toutes les réponses. Et peut-être qu'on va être beaucoup plus libre et créatif, beaucoup plus stimulé, mais c'est dangereux. C'est hyper dangereux, parce qu'il y a toujours des petits malins qui sont liés à des dispositifs politiques, commerciaux. On vit dans un monde de plus en plus dangereux, de plus en plus dangereux. Est-ce qu'on va être capable de maîtriser cela alors que la technologie va beaucoup plus vite que notre conscience, que nos idées, que, je le dis toujours aussi, notre maturité, notre cerveau n'a pas beaucoup progressé depuis 10 000 ans, tandis que notre pouvoir entre nos mains et monte actuellement verticalement, l'écart est de plus en plus grand, de plus en plus dangereux. Quelquefois, quand j'ai bu un petit verre, je dis qu'il va falloir que notre cerveau mute. On n'est pas capable, simplement, en continuant avec notre bagage culturel, de maîtriser cette accélération de la vitesse. Parce que là, il faudrait conduire le monde à 300 à l'heure, à 400 à l'heure, alors qu'on a des réflexes, disons, démocratiques, de sagesse, pour conduire à la vitesse d'une bicyclette. Alors, si notre cerveau ne mute pas, ce ne serait pas la première fois que notre cerveau mute. Hein, quand on est descendu des arbres, le fait de marcher verticalement sur deux jambes seulement, ça a fait muter notre cerveau. Alors peut-être que les ordinateurs vont le faire muter aussi. Oui, jeune homme. Oui, mais il y a des écrivains, des cinéastes qui ont créé des œuvres sur ce genre d'hypothèse. Ou même, plus que ça, les 1 et les 0 finissent par nous formater et puis nous en devenons les pions. Moi, je fais une hypothèse très optimiste. Parce que, de toute façon, être pessimiste, ça donne mal au ventre et puis ça rend malade. C'est essentiel d'être optimiste, même si on se trompe. Et mon optimisme, c'est de m'appuyer sur un certain nombre de constatations que l'on fait déjà maintenant, qui est que en 10 ans, parce que tout ça s'est développé en 10 ans, hein, 95, 2007, mettons 12 ans, bon. C'est rien 12 ans. Mais en 12 ans, on s'est rendu compte que la langue anglaise dominatrice, que nos petits-enfants allaient tous parler d'une façon quasiment unique, plus besoin d'apprendre le chinois et le javanais. Bon, finalement, on se rend compte que, oui, la langue se détériore et s'utilitarise d'une façon triviale, mais il y a une recrudescence des diversités linguistiques grâce à l'Internet. Parce que si je suis... un poète paumé dans un coin où il y a quand même de l'électricité et une connexion Internet, je peux mettre sur Internet mes poèmes, mes romans, mes œuvres. Si je suis une population de 500 personnes quasiment condamnée à espèce en voie de disparition, l'Internet peut me donner une place. Bon. Et on voit que déjà l'anglais ne domine plus, contrairement à toutes les prophéties, est en dessous du 50% des pages Internet. On voit que c'est maintenant, on dit c'est le chinois qui va, bon, mais toutes les autres langues qui apparaissent, la diversité culturelle est très très bien servie par l'Internet, parce que l'Internet ça produit et ça offre l'accès. Bon. D'autre part, il y a comme des phénomènes de balancier. On voit apparaître le fait que dans les structures politiques, par exemple, l'unification européenne permet aux Catalans ou aux Basques et d'autres, dans un ensemble, qu'on tolère qu'ils reprennent davantage leur identité culturelle, linguistique, etc. Bon. Parce qu'on voit une résistance considérable à l'effet d'impérialisme des grandes puissances militaires et économiques et technoscientifiques. On voit que la réaction de l'islam à l'heure actuelle est un cas manifeste d'allergie à un pouvoir arrogant. Il y a des équilibres humains qui ne sont pas technologiques ou de communication. Et plus vous allez dans un sens de fédérer, d'uniformiser, plus vous avez une réaction de défense qui est de localisme, et plus éventuellement un équilibre peut s'établir entre des autonomies locales et des structures plus grandes, je ne voudrais surtout pas dire fédérales, parce qu'au Canada, c'est un mot toujours qui nous embarque dans un grand débat. Mais ces phénomènes d'équilibre-là qu'on voit en Europe, qu'on voit ailleurs, sont extrêmement intéressants. Je prends l'Amérique latine. À l'heure actuelle, l'Amérique latine est en train de s'organiser avec des satellites, des télévisions télésourdes pour compenser CNN en espagnol, avec des systèmes d'accords économiques latino-américains qui sont en train de se développer comme un élément avec plus d'autonomie par rapport à Washington, mais en même temps, ça veut dire qu'ils fédèrent plus à l'intérieur, ils concèdent plus entre eux de partage de souveraineté, mais ça leur permet de résister à l'espèce de mainmise nord-américaine qu'ils subissaient avant. Alors, tous ces phénomènes-là, il y a comme une sorte d'écologie des sociétés humaines qui ressemble pas mal à l'écologie d'aller dans une forêt, vous voyez là où les érables prennent le pas sur les trembles, sur les épinettes, etc. C'est la bataille de ces équilibres-là. Toujours l'espèce veut toujours être dominée. Et puis, finalement, il y a un incendie, puis ça repart autrement, etc. Alors, moi, je ne crois pas que l'Internet, plus que l'aviation civile ou militaire, soit un élément d'uniformisation et d'aplatissement de la planète. C'est plutôt le contraire qu'on observe actuellement. Et puis, je peux prendre l'avion, le même Boeing ou le même Airbus, être assis à côté d'un Africain, d'un Sikh, d'un Chinois, et puis derrière moi, encore des Amérindiens. Ils ont chacun leur culture différente, leurs références et leurs valeurs différentes. Ils sont dans le même avion, mais le fait qu'ils soient dans le même avion, qu'ils mangent le même sandwich dégueulasse, ne change absolument rien à la diversité culturelle qu'ils chérissent même d'autant plus. Alors, je suis pas prophète, hein. c'est des réactions très, très spontanées et sans profondeur que je livre là, juste pour dire que dans le code binaire, c'est un code extrêmement élémentaire, 1-0. Je ne peux pas être plus élémentaire que ça. Je ne crois pas, et ça peut traduire toutes les langues, ça peut traduire toutes les diversités d'émotions, d'esthétiques, de religions, etc., etc. Je ne crois pas que ça va être uniformisant. Pensez que c'est quand même assez marrant que nous écrivons tous avec des chiffres arabes, y compris les Chinois. Je ne pense pas que le fait que les Chinois écrivent avec des chiffres arabes n'a rien changé de leur esprit comptable, où ils sont si forts. Et je ne pense pas que ça ait fait des Arabes nécessairement des comptables. Non, je ne suis pas. Non. Moi, je suis comme tout le monde. Hein, mes chaussures viennent de Taïwan, mes chaussettes viennent des Philippines, ma chemise vient, etc. etc. Ça ne change pas ce que j'ai dans la tête. Je ne crois pas que ça change ce que j'ai dans la tête. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça c'est sûr que ce code binaire qui est quand même assez récent, hein, ça date de, disons, la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus si je pense aux machines de faire les tricots Jacquard ou autre, mais disons, ça, c'est quand même très récent. Mais déjà, avec les ordinateurs quantiques, on est dans des langages à trois termes, puisque 1 peut devenir tantôt 1, tantôt 0, et puis 0, même chose. Donc même, ça redouble. Et puis, on voit bien que, par exemple, dans la génétique, on est dans un alphabet à 4 lettres, à CGT. Hein? Et ça, c'est sûr que nous sommes encore au tout début, archi-primitif, de ce que vont être les algorithmes et les codages dans 2-3 générations. C'est d'ailleurs vertigineux. Mais l'efficacité du code binaire, ce qu'on gagne, ce qu'on perd d'une main et de l'autre, l'efficacité du code binaire est la plus prodigieuse qu'on puisse imaginer. Quand on aura un code à 26 lettres, si je puis dire, on aura peut-être plus de complications dans l'esprit ou de bon, mais on perdrait peut-être. Là, je m'embarque de travers. Donc, j'ai mieux m'arrêter là parce que là, je m'en vais vraiment dans la mauvaise pente là, parce que je ne sais pas comment je vais terminer ma phrase. Mais c'est clair que on peut encore pas du tout préjuger de ça. Mais en tout cas, on est sûr que c'est grâce à la simplicité bête et barbare du code binaire par rapport aux alphabets multilettres précédents, qu'on a pu développer cette convergence et cette instrumentalisation. Ce n'est pas avec des alexandrins que vous irez sur la Lune, ça c'est sûr. Hein? Ouais. Encore une autre question là. Bertrand. Vas-y. Mais l'imaginaire peut être pervers et assassin. Hein? J'ai pas besoin de donner des exemples. Hélas. Oui. Ouais. Il y a un livre qui va apparaître, je crois, à la fin de la semaine, d'Antoine Robitaille, le journaliste au Devoir, qui s'appelle Le Nouvel Homme Nouveau. Qui fait justement, c'est un excellent bouquin, je le dis parce que je viens de le lire, j'ai fait le commentaire pour le journal de samedi prochain. C'est un livre d'un journaliste intelligent et très bien informé qui fait le tour justement des utopies actuelles, c'est-à-dire transhumanisme, post-humanisme, l'institut extropien de M. Max Moore, etc. Ou bien les analyses de Ray Kurzweil qui dit que, je dis ça pour que tout le monde se comprenne de quoi on parle, dit que les machines, c'est-à-dire les ordinateurs, vont devenir intelligentes. Ça, oui, intelligentes, enfin, une intelligence informatique, c'est quand même fort et fort limité en même temps. Puis ensuite, son livre suivant, c'était les machines spirituelles. Et puis, il aboutit à l'idée que, avec la loi de Moore, vous savez, qui dit que tous les 18 mois, puis on l'a vérifié, l'augmentation de la puissance des ordinateurs double, hein, la puissance et la mémoire, et puis le prix diminue. Alors il a pris sa calculette, puis il a calculé que, je crois que c'est en 2017 ou 2020, je ne me rappelle plus tellement c'est farfelu, j'ai fait exprès de plus me rappeler la date, l'ordinateur le plus sophistiqué, disons, hein, un Pentium 14e génération, va être aussi puissant qu'un cerveau humain. Enfin, c'est imminent, hein. C'est une question de 10-20 ans. Et puis que dans 30 ou 40 ans, un ordinateur sera puissant comme 10 cerveaux humains. Mais puissant dans le sens intelligence, plus la puissance des calculs. Bon. Alors, vous avez des gens comme ça qui trouvent que l'être humain est obsolète et ringard, que l'ère du carbone, c'est vraiment l'archaïsme le plus complet. Et puis qu'enfin, nous allons arriver à l'ère du silicium. Je n'ai pas dit du silicone, parce que les femmes sont déjà à l'ère du silicone. J'ai dit du silicium. On est vraiment au dernier moment où on va devenir effectivement des post-humains. C'est-à-dire des gens qui vont devoir... C'est ce qu'on appelle aussi en science-fiction le mur de la singularité ou le mur du futur. C'est le moment où... Les ordinateurs vont avoir suffisamment d'autonomie, de puissance de mémorisation et de calcul, et de capacité d'auto-apprentissage pour se développer indépendamment de nous. Et à ce moment-là, ils prennent la poudre d'escampette, c'est l'accélération totale. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont mener le monde. Et à ce moment-là, nous autres, on est dépassés, on est des gens de l'ère du carbone, ou alors on va se harnacher avec des puces, des capteurs, etc., et on va devenir des sortes de cyborgs surhumains, pas surhumains, post-humains. Et c'est un grand progrès. Un grand progrès, et là, c'est une révolution anthropologique, selon Ray Kurzweil. Et à ce moment-là, peut-être que finalement, on va en finir avec la guerre, l'adultère et la gourmandise. Pour moi, c'est la pensée. C'est un gourou qui vend pas des livres comme moi à 2000 copies, mais à 200 000 copies. Il est au MIT en plus. Il y en a comme ça une dizaine de gourous, surtout anglo-saxons, aux États-Unis et un peu en Angleterre, qui sont en train de dire que nous sommes des minus abens. Maintenant, on ne croit plus en Dieu. Mais on va déléguer aux ordinateurs l'intelligence artificielle supérieure qui va nous guider. C'est vraiment un transfert. Avant, on était aliénés devant Dieu, à genoux devant Dieu. Maintenant, on va s'agenouiller devant l'ordinateur. Et à ce moment-là, ce n'est pas grave, parce que ces ordinateurs, ce sera nous, dit-il. Alors là, c'est vraiment du fantasme technoscientifique le plus stupide qu'on ne puisse pas formuler, mais c'est très intéressant comme fantasme. Mais ça devrait aller dans la littérature, la science-fiction, pas au MIT. N'empêche que ça fait partie, effectivement, au XIXe siècle, on avait des utopies politiques. On allait transformer le monde grâce au fouriérisme, grâce à l'anarchie, grâce au communisme, etc. Ça a fait des flops. Hein. Alors maintenant qu'on ne croit plus aux utopies politiques, on est dans des utopies technoscientifiques et on s'en remet à cela. Et pour moi, c'est vraiment l'aberration la plus... Bon, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ils sont seuls à y croire et puis ils ne vont pas changer le monde. Mais enfin, pour eux, c'est l'eugénisme, c'est l'homme modifié génétiquement et tout ce qui va avec. Alors, du point de vue philosophique, c'est très intéressant de les lire. Et puis c'est pas dangereux parce que ça ira pas loin, pas plus que. Si, c'est moins dangereux que le communisme parce que ça ne se réalisera pas comme le communisme a pu se réaliser. Oui.
Bonsoir. Je trouve intéressant justement votre que vous ayez pointé du doigt le fait que ces scientifiques sont dans des mythes sans s'en apercevoir souvent. Moi-même. Arrivé à une idée semblable, je fais des recherches en épistémologie, puis par une voie différente, j'ai constaté...
Parlez plus près du micro.
Je fais des recherches en épistémologie, puis oui. J'ai constaté par une voie différente que oui, on est dans la croyance, même si on s'imagine ou on croit ne pas l'être.
Exact. Oui.
Puis je vois aussi qu'un coup qu'on s'aperçoit de ça, on peut aussi arriver à prendre une attitude... pessimiste ou vis-à-vis de la capacité de l'être humain à sortir du mythe, finalement. Puis, je vois aussi autour de moi, comme je fais des recherches en épistémologie, je me rends compte que ce mythe-là, qu'on ne peut pas sortir du mythe, est très présent dans notre civilisation. Parce que c'est un mythe aussi, je pense qu'il faut l'admettre de ce point de vue-là. Puis, pas juste au Québec, mais dans la civilisation occidentale. Donc, je me demandais si vous partagez ce mythe-là aussi, si vous pensez, si vous croyez qu'on est contraint à rester à l'intérieur du mythe ou non, si vous pensez qu'il y a peut-être une façon que vous n'avez peut-être pas trouvé tout de suite, mais que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir de ce côté-là.
Si j'ai bien compris votre question, c'est dont je ne suis pas sûr. Je vais tenter une réponse. Vous verrez si elle est partielle. Vous voulez la repréciser?
Sortir du mythe au sens de sortir dans le domaine d'une conception du monde, sortir de la croyance.
Oui, d'accord.
C'est ça.
C'est bien que je l'ai compris. Non, je crois qu'on ne peut pas sortir du mythe d'aucune façon. Ne serait-ce que parce que notre langage, qui est quand même notre outillage conceptuel pour formuler notre conception du monde, agir sur le monde, notre langage est complètement métaphorique. Il n'y a pas un mot que nous utilisons qui ne soit pas métaphorique, aussi bien dans les sciences, dans le rationalisme, qu'en poésie, bien entendu. La poésie se donne la liberté de jouer avec les métaphores, mais quand je parle d'une force, quand je parle d'un quark, quand je parle de tous les mots, le magnétisme, tous les mots que vous voudrez me citer qui sont des mots durs, de la science dure, ce sont des métaphores. Alors, bien sûr, on parle de rapport de force, c'est des images. Alors, nous pensons avec une pensée imagée ou imaginante. Il y a des gens qui ont employé le mot imaginant. Nous imageons notre représentation du monde avec des mots qui sont des métaphores qui finalement se sont, par l'usage, ont perdu leur. Nous avons perdu la perception des métaphores qui sont dedans. C'est des mots valises et en réalité, derrière, on utilise des références imaginaires qui sont souvent basées sur les rapports familiaux, les rapports parents-enfants. J'ai étudié cette chose-là. J'en parle pas mal dans mon dernier bouquin. Autrement dit, nous représentons le monde avec des mots-images dont nous essayons d'oublier que ce sont des images pour en faire des concepts opérationnels ou opératoires purs et durs, abstraits, hein, comme un signe plus, un signe moins, bon, qui sont des métaphores. Un signe plus, un signe moins, un signe égal, ce sont des métaphores. Bon. Et nos structures de syntaxe, on sait bien, ça a été beaucoup dit, que la grammaire est complètement, ça les sociologues l'ont bien vu, la grammaire est complètement le reflet des structures sociales, d'autorité d'une société. Et la grammaire chinoise, agrégative, ou la grammaire allemande, ou la grammaire française correspondent à des structures sociales différentes. Bon. Alors, quand on a, pour penser le monde, des structures de langage et puis des mots-images, déjà on est mal barré pour penser le monde en soi, en dehors des mythes. Le monde, notre image du monde est complètement métaphorique. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, la métaphore de l'univers comme un organe maternel ou comme un mécanisme ou comme un système cybernétique. Ça, c'est des métaphores. On va d'une métaphore à l'autre. Bon. Et il y a des gens qui ont essayé, des linguistes qui ont essayé de découvrir ce qui serait une langue universelle, naturelle, comme on dit, qui transcenderait les métaphores de chaque culture ou les structures de chaque société et qui arriverait à être une langue universelle avec laquelle on pourrait parler des vraies choses. Ça, c'est une vue de l'esprit qui, naturellement, en général, vient du monde anglo-saxon, qui pense que tout le monde parle anglais et pense en anglais, et qui sont utilitaristes. Mais dans le monde latin, c'est inacceptable dans notre culture à nous. Alors, on voit bien que la culture d'où viennent les gens qui font ces théories est déjà en soi... une distinction au niveau de l'imaginaire. Et c'est Nietzsche qui disait ça. Si nous arrivions à penser le monde comme Dieu, hein, c'est-à-dire indépendamment de la culture ou de la langue, hein, Dieu, justement, ce serait peut-être la grande figure qui penserait le monde en soi, avec des concepts qui ne seraient pas mythiques, puisqu'il est le mythe lui-même. Enfin, le « puisque » n'a pas de sens, mais en tout cas. Ce que disait Nietzsche, c'est que si nous étions capables de penser le monde comme ça, en dehors des pièges du langage, nous serions des astres morts. C'est-à-dire que nous serions des éléments de ce monde, comme une pierre, une montagne, mais nous ne serions plus capables d'avoir ce regard sur nous-mêmes, à supposer que la montagne, effectivement, n'ait pas de regard sur le monde. Pourtant, elle voit loin. Mais c'est ça cette idée, que dès lors qu'on crée un sujet pensant, on est dans une situation, on va dire, poétique. Et c'est Heidegger qui disait ça aussi. Hein. Le fait, tous les mots ont une étymologie Dans l'étymologie, on retrouve la métaphore qui est derrière les mots. Puis, penser en allemand ou penser en russe ou penser en chinois, ce n'est pas la même pensée. Alors, là encore, ça renvoie ailleurs. Naturellement, les scientifiques croient à une langue universelle. Hein. Le théorème de Thalès, c'est également vrai dans toutes les langues du monde. Hein. Ou bien la loi de la gravité, elle ne change pas si vous la dites dans un dialecte africain ou si vous la dites en anglais. Bon. En réalité, je ne crois pas ça. Je pense que les mathématiques sont extrêmement influencées, ou disons les sciences aujourd'hui sont extrêmement influencées par la pensée anglo-saxonne. Et le jour où on va avoir des scientifiques qui vont être capables de pouvoir institutionnellement développer leurs recherches et publier leurs recherches, pas forcément en anglais, mais en indien ou en n'importe quel autre, y compris en africain, parce que penser magique pour penser magique, c'est aussi intéressant, ça nous ouvrirait de nouvelles visions sur l'interprétation du monde. Alors aujourd'hui, on dit, bon, ben non, parce que les Africains, ils croient à la pensée magique. On oublie que Newton était nourri d'alchimie. Et entre l'alchimie et la pensée magique, je ne vois pas tellement de différence. Alors, il me semble, si on réintroduisait la diversité culturelle, si on admettait que la science est une production culturelle, et pas une production universelle, ahistorique et asociale, si je puis dire, ça nous ouvrirait de nouvelles intuitions pour penser la physique, etc., etc. Mais c'est très difficile dans un monde comme il est actuel, avec les rapports de force culturels actuels, et où les marginaux jouent le jeu du pouvoir central. C'est très difficile d'imaginer qu'un mathématicien arabe ou africain pourrait avoir de nouvelles intuitions dont un mathématicien américain des États-Unis n'est plus capable parce qu'il est enfermé dans son discours.
Puis, à ce moment-là, c'est quoi pour vous, quel rôle joue la science à ce moment-là si on n'a plus la capacité de sortir du mythe? Pourquoi continuer ses recherches en physique? Pourquoi... comme vous parliez de chercher des méthodes tantôt pour votre propre nouvelle science. Pourquoi essayer de définir des méthodes plus précises? Ça serait dans quel but à ce moment-là, d'après vous?
Parce que si je suis chaman, je vais être extrêmement intéressé à développer des techniques de sorcellerie. Et je vais être très efficace éventuellement à force de travailler. Et parce que la science... est traditionnellement en Occident un domaine de connaissances fondamentales, éternelles, universelles, aussi longtemps que la dialectique du nom, la science progresse par négation successive. Bon, mais toujours elle est affirmée jusqu'à ce qu'elle soit niée par une nouvelle expérience, elle est affirmée comme universelle.
Vous parlez de Thomas Kuhn? Vous parlez de Thomas Kuhn?
Je pourrais dire Thomas Kuhn, mais c'est à l'autre que je pensais qu'il y avait qui est bien plus connu, mais peu importe. C'est une idée de toute façon très, très répandue maintenant. Alors, aujourd'hui, nous avons une curieuse modestie par rapport à la technoscience que nous n'avions pas du temps de la génération précédente. Mon père était un scientifique qui travaillait pour la connaissance universelle de la science. Il était un naturaliste, mais il pensait que c'était vraiment un patrimoine mondial. Et il n'aurait jamais accepté de travailler pour des applications commerciales ou autres. C'était cette génération-là qui croyait à la science héritée de la théologie. C'est comme la connaissance de l'univers. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus de gens acceptent l'idée que la technoscience, d'abord, dépend de la technologie et pas simplement de la vérité, et dépend des équipements, etc. Et puis qu'elle vise les applications utiles pour la santé, pour tout, en tout cas. Et c'est là où on obtient d'ailleurs des budgets de recherche. Vous savez bien que dans le domaine des maladies, s'il n'y a pas plus que tant de millions de gens qui ont telle maladie, vous n'obtiendrez pas de budget pour découvrir le gène ou le virus qui est en jeu. Alors, actuellement, on a comme une sorte de... En même temps, la technoscience est devenue Le NEC plus ultra, c'est devenu le moteur de l'évolution humaine. Hein, c'est plus Darwin maintenant. Hein. C'est plus l'adaptation naturelle qui fait évoluer le monde, c'est la technoscience. Bon. Mais en même temps, il y a plus de modestie. Et quand on voit les discours des prix Nobel, on vient d'en voir quelques-uns, tous ils disent que, au fond, ce qu'ils ont découvert, même s'ils sont de la génération de mon père, c'est utile. C'est une contribution au progrès humain. Alors, c'est intéressant d'observer cette évolution de l'idéologie de la science. D'autre part, quand je dis un mathématicien arabe va peut-être découvrir un algorithme, c'est un mot arabe, algorithme, hein, un algorithme, je ne sais pas moi, génétique par exemple, hein, qu'un gars de nouvelle, je sais pas, de quelle université, celle que vous voudrez aux États-Unis, il y en a pas mal, ne serait pas capable de penser parce que lui, dans une autre culture, il fait d'autres liens, il a d'autres métaphores pour penser. Je ne sors pas de l'idée que c'est une contribution à la même science universelle. C'est une diversité culturelle qui enrichit la recherche, parce que la recherche, c'est quand même des intuitions, des concepts, des créations imaginaires. On imagine de faire un lien entre deux choses que jusqu'à présent on n'a jamais liées et on découvre à partir de là. Bon. Alors, ce n'est pas contradictoire en soi. Et de toute façon, fondamentalement, comment voulez-vous que nous ayons développé tout ce cerveau humain, tous ces efforts de siècle en siècle pour aujourd'hui dire, par exemple, la science option zéro, comme on a pu dire la consommation ou le développement technologique option zéro, parce qu'on est en train de détruire la planète. Là, la logique de la recherche scientifique, de la conceptualisation, l'obsession de comprendre comment le monde fonctionne, soit en soi et pour soi, soit pour aller chercher des brevets commerciaux, est absolument irrépressible. Alors là, ça renvoie au mythe. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de rester sagement avec notre connaissance de notre petit coin de jardin et de le cultiver, et qu'il faut qu'on aille explorer l'univers à l'infiniment petit, qu'on invente des énergies, maîtriser des énergies pas possibles, etc., etc., ben ça, c'est Prométhée. Puis ça, vous n'enlèverez pas ça de notre Occident. En revanche, vous pouvez aller dans d'autres cultures africaines où ça les intéresse éventuellement pas, sauf qu'ils sont pris dans notre logique. Mais c'est pas ça. Prenez le temps, simplement le temps. Ils disent, vous autres, les Occidentaux, vous êtes complètement des esclaves asservis au temps. Courir après le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous autres, c'est nous qui maîtrisons le temps. C'est nous qui contrôlons le temps. Puis on est bien, bien mieux comme ça que vous autres, là, qui nous faites rigoler à vous voir courir tout le temps. Voilà une valeur du temps dont je ne suis pas sûr que la valeur occidentale, elle est plus moderne peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'elle est, au point de vue de certaines valeurs, elle est plus intelligente ou plus euphorisante. Je crois que le temps est passé, c'est pour ça que j'arrivais au temps. Vous avez été patient. C'est gentil à vous. Vous voyez que même si on n'était pas 400 personnes dans la salle, enfin moi j'ai passé un bon moment, j'espère que vous n'êtes pas partis. Donc... N'oubliez pas, dehors, prendre la feuille de l'enquête sur le devoir. J'aimerais ça que, si vous avez envie, hein, que vous y participiez. Et puis, je vous ai dit pourquoi. Et puis, à suivre. Merci, vous avez vraiment été très patient.